Note sur le livre du Deutéronome par C.H. McIntosh, édition 1963. Chapitre 1er. Lecture de l'étude. Ce sont ici les paroles que Moïse dit à tout Israël en deçà du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis de Suf, entre Paran et Tophel, Laban, Hatséroth, et d'Isaab. Il y a 11 journées depuis Horeb par le chemin de la montagne de Séir jusqu'à Kadès Barnéa, Deutéronome 1, versets 1 et 2. L'écrivain inspiré a soin de nous donner les renseignements les plus précis quant à l'endroit où les paroles de ce livre furent prononcées aux oreilles du peuple. Israël n'avait pas encore traversé le Jourdain. Ils en étaient tout près. Toute la situation est décrite avec une minutie qui montre l'importance que Dieu mettait à tout ce qui concernait son peuple. Il veillait sur eux de jour et de nuit. Chaque étape de leur voyage était dirigée par lui. Rien n'était trop petit pour qu'il s'en occupât, rien n'était trop grand pour sa puissance. S'il en était ainsi pour Israël dans le désert de jadis, il en est encore ainsi maintenant pour l'Église dans son ensemble et pour chaque membre en particulier. Les yeux d'un Père sont continuellement sur nous, ses bras éternels sont autour de nous de jour et de nuit. Il ne retire pas ses yeux de dessus le juste. Job 36, verset 7. Il s'est chargé de tous nos besoins, de tous nos soucis. Il nous invite à nous décharger sur lui de notre fardeau, qu'il soit gros ou petit, avec la douce conviction qu'il prend soin de nous. Tout cela est merveilleux et rempli de consolation, bien propre à tranquilliser le cœur, quoi qu'il arrive. Mais le croyons-nous ? Croyons-nous réellement que le possesseur des cieux et de la terre, Genèse 14, verset 19, est notre Père et qu'il s'est chargé de pourvoir à tous nos besoins du commencement à la fin?
Genèse 14, verset 19. Béni soit Abraham de par le Dieu très haut, possesseur des cieux et de la terre.
Hélas! Il est à craindre que nous ne connaissions guère la puissance de ces grandes mais simples vérités. Nous en parlons, nous en faisons profession, mais avec tout cela nous prouvons par notre vie de chaque jour combien peu nous nous les approprions. Si nous étions bien convaincus que Dieu pourvoit à tous nos besoins, si toutes nos sources étaient en lui, psaume 87, verset 7, pourrions-nous rechercher de pauvres sources terrestres qui tarissent si promptement et désappointent nos cœurs? Évidemment, non.
Psaume 87, verset 7. Et en chantant et en dansant, ils diront, toutes mes sources sont en toi.
Nous nous imaginons souvent que nous vivons de foi, tandis qu'en réalité nous nous reposons sur quelque appui humain, qui nous manquera tôt ou tard. N'en est-il pas ainsi, lecteur? Ne sommes-nous pas constamment portés à abandonner la source d'eau vive pour nous creuser des citernes crevassées qui ne peuvent contenir de l'eau? Et cependant, nous croyons vivre de foi. Nous faisons profession de ne nous attendre qu'à Dieu seul pour suppléer à nos besoins, quels qu'ils soient, tandis qu'en réalité nous nous arrêtons à quelque source terrestre et y cherchons quelque chose. Est-il surprenant que nous soyons désappointés? Comment pourrait-il en être autrement? Notre Dieu ne veut pas que nous comptions sur quelqu'un d'autre ou sur autre chose que sur lui-même. En maint endroit de sa parole, il nous a donné ses pensées quant au vrai caractère et au résultat certain de la confiance humaine. Prenons ce passage si solennel du prophète Jérémie. Maudit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son bras et dont le cœur se retire de l'Éternel. Et il sera comme un dénué dans le désert, et il ne verra pas quand le bien arrivera, mais il demeurera dans des lieux secs au désert, dans un pays de sel et inhabité. Puis remarquez le contraste. Béni l'homme qui se confie en l'Éternel, et de qui l'Éternel est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, et il étendra ses racines vers le courant, et il ne s'apercevra pas quand la chaleur viendra, et sa feuille sera toujours verte. Et dans l'année de la sécheresse, il ne craindra pas, et il ne cessera de porter du fruit. Jérémie 17, versets 5 à 8. Nous avons ici, dans un langage divinement clair et éloquent, les deux côtés de cet important sujet. La confiance terrestre amène une malédiction certaine. Son résultat est la stérilité et la désolation. Dieu, dans sa fidélité même, fera tarir toutes les sources humaines, fera écrouler tous les appuis humains, afin que nous apprenions quelle est la folie de ceux qui se détournent de lui. Quelles images frappantes que celles employées dans le passage cité, les lieux secs du désert, une terre salée et inhabitée. Telles sont les figures employées par le Saint-Esprit pour représenter la confiance en l'homme. D'un autre côté, quoi de plus beau, de plus rafraîchissant que les images adoptées pour représenter toutes les bénédictions de la confiance simple et entière en l'Éternel? Un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines le long d'une eau courante, la feuille toujours verte, le fruit ne cessant jamais. Il en est de même de l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est nourri par ses sources éternelles qui coulent du cœur de Dieu. Il boit gratuitement de la fontaine d'eau vive. Il trouve toutes ses sources dans le Dieu vivant. La chaleur peut survenir, mais il ne s'en aperçoit point. L'année de la sécheresse peut arriver, il ne s'en met point en peine. Des milliers de ruisseaux tributaires peuvent tarir, il ne s'en doute pas, parce qu'il ne dépend pas d'eux. Il habite à côté de la fontaine jaillissante, il ne manquera jamais de rien, il vit par la foi. Et maintenant, puisque nous sommes sur ce sujet, tâchons de comprendre bien clairement ce que c'est que vivre de foi, et demandons-nous si tel est notre cas. On parle souvent de la vie de foi d'une manière peu intelligente. On croit que c'est simplement se confier en Dieu pour la nourriture et le vêtement. On cite certaines personnes n'ayant ni fortune ni revenus assurés comme vivant de foi, comme si la vie glorieuse et merveilleuse de la foi n'avait pas une sphère plus vaste, une portée plus haute, que les choses temporelles et la satisfaction de nos besoins. Nous ne saurions protester avec trop de force contre cette misérable appréciation de la vie de la foi. Elle en limite la sphère, en abaisse la portée d'une manière intolérable pour quiconque en connaît quelque peu les saints et précieux mystères. Pouvons-nous admettre un instant qu'un chrétien qui se trouve avoir un revenu assuré doive pour cela être privé du privilège de vivre de foi? Cette vie bénie ne s'élève-t-elle pas plus haut que la confiance en Dieu pour nos besoins temporels? Ne nous donne-t-elle pas de Dieu une idée plus élevée que celle-ci? Il ne nous laissera pas mourir de faim ni privé de vêtements. Loin de nous une telle pensée, la vie de la foi ne doit pas être comprise de la sorte. Ce serait la déprécier grandement et faire un tort grave à ceux qui sont appelés à vivre de cette vie. Quelle est la signification de ces quelques paroles « Le juste vivra de foi » Nous les trouvons pour la première fois dans Habacuc, chapitre 2, verset 4.
Mais le juste vivra par sa foi.
Elles sont citées par l'apôtre en Romains 1, verset 17, où il pose le solide fondement du christianisme.
Romains 1, verset 17, « Car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, or le juste vivra de foi. »
Il les cite encore en Galates 3, verset 11, où il cherche anxieusement à ramener ces églises ensorcelées aux fondements solides qu'elles abandonnaient dans leur folie.
Galates 3, verset 11, « Or que par la loi personne ne soit justifié devant Dieu, cela est évident, parce que le juste vivra de foi. »
Enfin, ces paroles se trouvent une quatrième fois au chapitre 10, verset 38 de l'Épître aux Hébreux, où l'apôtre avertit ses frères du danger de rejeter leur confiance et de renoncer à atteindre le but.
Hébreux 10, verset 38, « Or le juste vivra de foi, et si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. »
Tout cela nous montre l'immense importance et la valeur pratique de ces quelques mots « le juste vivra de foi ». À qui s'applique-t-il? À quelques serviteurs du Seigneur qui n'ont pas de revenus assurés? Non, ils s'adressent à chaque enfant de Dieu et sont l'heureux privilège de tous ceux à qui peut s'appliquer le titre de juste. C'est une funeste erreur de limiter ce privilège. C'est donner la prééminence à une portion de la vie de la foi qui devrait être à l'arrière-plan si une classification était ici permise, car il ne doit pas y en avoir. La vie de la foi est une. La foi est le grand principe de la vie divine, du commencement à la fin. Nous sommes justifiés par la foi, et nous vivons par la foi. Nous sommes debout par la foi, et nous marchons par la foi. Du début à l'issue de la course chrétienne, tout est par la foi. C'est donc une funeste erreur que de distinguer certaines personnes qui dépendent du Seigneur pour leurs besoins temporels et de dire qu'elles vivent de foi, comme si elles étaient les seules à le faire. Souvent même, on les donne en exemple à l'Église de Dieu comme quelque chose de merveilleux, et le reste des chrétiens est amené à croire que le privilège de vivre de foi est entièrement au-dessus de leur portée. Ils sont ainsi trompés quant au vrai caractère et à la sphère de la vie de foi, et leur vie morale en souffre matériellement. Que le lecteur chrétien comprenne donc clairement que c'est son heureux privilège, quelle que soit sa position sociale, de vivre d'une vie de foi dans toute l'acception de ce mot. Il peut, selon sa mesure, prendre le langage de l'apôtre et dire « Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates 2, verset 20. Que personne ne lui ravisse ce précieux et saint privilège qui appartient à tous les membres de la famille de la foi. Hélas, trop souvent notre foi est faible, tandis qu'elle devrait toujours être forte, ferme et vigoureuse. Notre Dieu aime une foi ferme. Si nous étudions les évangiles, nous y verrons que rien ne réjouissait le cœur de Christ comme une foi qu'il le comprenait, qui comptait largement sur lui et qu'il appelle une grande foi. Voyez par exemple la Syrophénicienne en Marc 7 et le centurion en Luc 7.
Marc 7, verset 24, « Et se levant, il s'en alla de là vers les frontières de Tyr et de Sidon. Et étant entré dans une maison, il ne voulait pas que personne le sût, et il ne put être caché, car une femme dont la fille avait un esprit immonde, ayant ouï parler de lui, vint et se jeta à ses pieds. Or la femme était grecque, syrophénicienne de race. et elle le pria qu'il chassât le démon hors de sa fille. Et Jésus lui dit, « Laisse premièrement rassasier les enfants, car il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Et elle répondit et lui dit, « Oui, Seigneur, car même les chiens sous la table mangent des miettes des enfants. » Et il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et s'en allant en sa maison, elle trouva le démon sorti et sa fille couchée sur le lit. Luc 7, versets 1 à 10. Or, quand il eut achevé tous ses discours, le peuple l'entendant, il entra dans Capernaum. Et l'esclave d'un certain centurion à qui il était fort cher était malade et s'en allait mourir. Et ayant ouï parler de Jésus, il envoya vers lui des anciens des Juifs, le priant de venir sauver son esclave. Et étant venus à Jésus, ils le priaient instamment, disant, « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et nous a lui-même bâti la synagogue. » Et Jésus alla avec eux. Et déjà, comme il n'était plus guère loin de la maison, le centurion envoya des amis vers lui disant, « Seigneur, ne te donne pas de fatigue, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas cru digne moi-même non plus d'aller vers toi. Mais dis une parole, et mon serviteur sera guéri, car moi aussi, je suis un homme placé sous l'autorité d'autrui, ayant sous moi des soldats, et je dis à l'un « va » et il va, et à un autre « viens » et il vient, et à mon esclave « fais cela » et il le fait. Et Jésus, ayant entendu ces choses, l'admira, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous dis que je n'ai pas trouvé, même en Israël, une si grande foi. » Et ceux qui avaient été envoyés, s'en étant retournés à la maison, trouvèrent bien portant l'esclave malade.
Il est vrai qu'il venait aussi au-devant d'une petite foi, de la foi la plus faible. Il pouvait répondre à un « si tu veux » par un miséricordieux « je veux », un « si tu peux » par un « le « si tu peux » c'est « crois ». Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Le cœur du Sauveur était réjoui et son âme rafraîchie lorsqu'il pouvait dire « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux » Matthieu 15, verset 28. Nous pouvons être assurés qu'il en est de même aujourd'hui que lorsque notre bien-aimé Seigneur était sur la terre. Il aime qu'on se confie en lui, qu'on se serve de lui, qu'on compte sur lui en toute occasion et pour toute chose. Nous ne saurions aller trop loin en comptant sur son amour ou sur sa force. Il n'y a rien de trop petit, rien de trop grand pour lui. Il a toute puissance dans le ciel et sur la terre. Il est chef sur toute chose à l'assemblée. Il soutient l'univers et tout ce qu'il renferme par la parole de sa puissance. Les philosophes parlent des forces et des lois de la nature. Le chrétien pense avec délice à Christ, à sa parole, à sa toute science, à sa toute puissance. Toutes choses ont été créées ou subsistent par lui. Son amour, quel repos de savoir que le Tout-Puissant Créateur et Conservateur de l'univers est l'ami éternel de nos âmes, qu'il nous aime parfaitement, que ses yeux sont toujours sur nous, qu'il s'est chargé de pourvoir à tous nos besoins physiques, intellectuels ou spirituels. Il a des provisions pour toutes nos nécessités. Il est le trésor de Dieu pour nous. Pourquoi chercherions-nous ailleurs? Pourquoi faisons-nous, directement ou indirectement, connaître nos besoins à nos semblables et n'irions-nous pas tout droit à Jésus? Nous faut-il de la sympathie? Qui peut sympathiser avec nous comme notre miséricordieux souverain sacrificateur touché par nos infirmités? Avons-nous besoin de secours? Qui pourrait nous secourir comme notre puissant ami, le possesseur de richesses incalculables. Nous faut-il des conseils et des directions? Qui peut nous en donner comme celui qui est la sagesse même de Dieu et qui nous a été fait sagesse de sa part? N'affligeons pas son cœur aimant, ne déshonorons pas son nom glorieux en nous détournant de lui. Luttons avec soin contre la tendance qui nous est si naturelle d'attendre des secours humains. Si nous nous tenons tout près de la source, nous n'aurons jamais à nous plaindre de voir tarir les ruisseaux. En un mot, cherchons à vivre de foi et par là à glorifier Dieu dans notre vie. Revenons maintenant à notre chapitre, et tout d'abord nous attirerons l'attention du lecteur sur le verset 2. C'est certainement une parenthèse bien remarquable. Il y a 11 journées depuis Horeb par le chemin de la montagne de Séir jusqu'à Kadès-Barnéa. 11 journées, et cependant ce trajet leur prit 40 années. D'où cela vint-il? Nous n'avons pas besoin d'aller loin pour trouver la réponse. N'en est-il pas de même pour nous? Comme nous avançons lentement, que de tours et de détours, que de fois nous devons retourner en arrière et refaire le même chemin. Nous avançons lentement parce que nous apprenons lentement. Nous nous étonnons de ce qu'Israël ait mis 40 années à accomplir un voyage de 11 jours. Nous aurions bien plus de raisons de nous en étonner pour nous-mêmes. Comme Israël, nous sommes retardés par notre incrédulité, par notre lenteur de cœur à croire. Mais nous sommes bien moins excusables, vu que nos privilèges sont bien plus élevés que les siens. Les paroles de l'apôtre peuvent sûrement s'appliquer à beaucoup d'entre nous. Car lorsque vous devriez être des docteurs, vu le temps, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne quels sont les premiers rudiments des oracles de Dieu, et vous êtes devenu tel que vous avez besoin de lait et non de nourriture solide. Hébreux 5, verset 12. Notre Dieu est un maître fidèle et sage, aussi bien que clément et patient. Il ne nous permet pas d'apprendre superficiellement nos leçons. Quelquefois, nous croyons en avoir bien appris une, et nous essayons de passer à une autre, mais notre sage instituteur sait ce qu'il en est. Il voit la nécessité d'une étude plus approfondie. Il ne veut pas que nous nous en tenions à la théorie ou à la surface. Il nous gardera, s'il le faut, des années aux éléments jusqu'à ce que nous puissions aller plus loin. Si cela est humiliant pour nous et prouve notre lenteur à apprendre, quelle bonté du Seigneur de se donner tant de peine pour nous instruire. Une note en bas de page. Le voyage d'Israël de Horeb à Kadès-Barnéa représente l'histoire de beaucoup d'âmes cherchant la paix. Plusieurs des bien-aimés du Seigneur s'en vont, année après année, doutant, craignant, ne connaissant jamais le bonheur de la liberté par laquelle Christ a franchi son peuple. Il est triste de voir dans quel déplorable état beaucoup d'âmes sont retenues par le légalisme, par un faux enseignement, etc. Il est rare de nos jours de trouver une âme fermement établie dans la paix de l'Évangile. On considère comme une bonne chose, comme une marque d'humilité, d'être toujours dans le doute. On traite la confiance de présomption. En un mot, tout est renversé. L'Évangile n'est pas connu, les âmes sont sous la loi au lieu d'être sous la grâce, on les tient à distance au lieu de leur apprendre à s'approcher de Dieu. La religion du temps actuel est un mélange déplorable de Christ et du moi, de la loi et de la grâce, de la foi et des œuvres. Et les âmes sont laissées dans une complète confusion. Sûrement, cet état de choses demande l'attention la plus grande de tous ceux qui occupent la place si sérieuse de docteurs et de prédicateurs dans l'Église professante. Un jour solennel s'approche où ils auront tous à rendre compte de leur ministère. Reprise de l'étude. Et il arriva en la 40e année, au 11e mois, le premier jour du mois, que Moïse parla aux fils d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait commandé pour eux, verset 3. Ces quelques mots renferment un volume d'instructions pour tous ceux qui sont appelés à expliquer la parole. Moïse donnait au peuple ce qu'il avait lui-même reçu de Dieu, rien de plus, rien de moins. Il le mettait en contact immédiat avec la parole vivante de l'Éternel. C'est là, en tout temps, le grand principe du ministère. La parole de Dieu seule subsistera, car elle possède une puissance et une autorité divine. Tous ceux donc qui enseignent dans l'assemblée de Dieu devraient mettre un soin jaloux à prêcher la parole dans toute sa pureté, dans toute sa simplicité, à la donner à leurs auditeurs comme ils la reçoivent de Dieu, à les mettre en face du vrai langage de la Sainte Écriture. Ainsi seulement leur ministère s'adressera réellement aux cœurs et aux consciences de ceux qui les écoutent. Il liera l'âme à Dieu lui-même par le moyen de sa parole et produira une assurance et une fermeté qu'aucun enseignement humain ne donnera jamais. Voyez l'apôtre Paul. Ce fidèle serviteur de Christ cherchait à amener les âmes de ses auditeurs en contact direct et personnel avec Dieu lui-même. Il ne cherchait pas à les attacher à Paul. Qui donc est Apollos et qui Paul? Des serviteurs par lesquels vous avez cru, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Le but de tout faux ministère est de s'attacher les âmes. Ainsi le ministre est élevé. Dieu est mis de côté, et l'âme est laissée sans base divine sur laquelle se reposer. Voyons ce que dit encore notre apôtre sur cet important sujet. « Car je vous ai communiqué avant toute chose ce que j'ai aussi reçu, rien de plus, rien de moins, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. C'est de toute beauté et bien propre à attirer l'attention sérieuse de tous ceux qui désirent être de vrais ministres de Christ. L'apôtre avait soin de laisser le fleuve divin couler directement de sa source jaillissante, du cœur de Dieu dans les âmes des Corinthiens. Il sentait que cela seul avait de la valeur. S'il avait cherché à se les attacher, il aurait déshonoré son maître, leur aurait fait un grand tort, et lui-même en aurait assurément subi une perte en la journée de Christ. Mais Paul était bien loin de chercher à se faire un parti. Notez ce qu'il dit à ses bien-aimés Thessaloniciens. C'est pourquoi aussi nous, nous rendons sans cesse grâces à Dieu de ce que, ayant reçu de nous la parole de la prédication qui est de Dieu, vous avez accepté, non la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle l'est véritablement, la parole de Dieu, laquelle aussi opère en vous qui croyez, 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Nous nous sentons pressés de recommander ce sujet si important à l'examen sérieux de l'Église. Si tous les soi-disant ministères de Christ suivaient l'exemple de Moïse et de Paul, nous verrions un état de choses bien différent dans l'Église professante. Mais, hélas, il est de fait que l'Église de Christ, comme autrefois Israël, s'est complètement éloignée de l'autorité de sa parole. Où que l'on aille, on voit pratiquer et enseigner des choses qui n'ont pas de fondement dans l'Écriture. Non seulement on tolère, mais on sanctionne et on défend à outrance des choses qui sont en opposition directe avec l'Esprit de Christ. Si l'on demande où est l'autorité divine pour telle ou telle pratique, on nous répond que Christ ne nous a pas donné de direction pour ce qui concerne les affaires d'Église, qu'il nous a laissé libres d'agir d'après nos consciences, notre jugement ou nos sentiments religieux. Qu'il est absurde d'exiger un Ainsi a dit l'Éternel pour tous les détails en rapport avec nos institutions religieuses, qu'une large marge nous est laissée pour y faire entrer nos coutumes nationales et nos diverses manières de penser. On prétend que les chrétiens de profession sont libres de se former en soi-disant Église, de choisir la forme particulière de gouvernement de celle-ci, de faire leurs propres arrangements et de nommer leurs propres officiants. En est-il ainsi? Se demandera le lecteur chrétien. Se peut-il que le Seigneur ait laissé son Église sans direction sur des points aussi importants? Se peut-il que l'Église de Dieu soit plus mal partagée à cet égard que le peuple d'Israël? Dans nos études des livres de l'Exode, du Lévitique et des Nombres, nous avons vu quel soin admirable l'Éternel prenait pour instruire son peuple des plus minutieux détails en rapport avec leur culte public et leur vie privée. Tout ce qui concernait le tabernacle, le temple, la sacrificature, les ordonnances, les fêtes et les sacrifices, les solennités périodiques, les années, les mois, les jours, les heures même, tout était prescrit et arrangé avec une précision divine. Rien n'était laissé au jugement de l'homme, à sa sagesse, à sa raison. Sa conscience n'avait absolument rien à voir dans tout cela. S'il en eût été autrement, nous n'aurions jamais eu cet admirable et profond système typique que la plume inspirée de Moïse nous a présenté. Si Israël avait eu la liberté d'agir comme on voudrait nous faire croire que l'Église en a la liberté, quelle confusion! Combien de querelles, de divisions, de partis en auraient été l'inévitable résultat? Il n'en était point ainsi. La parole de Dieu elle-même décidait de tout, selon tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse. Cette phrase si significative précédait tout ce qui était prescrit et tout ce qui était défendu à Israël. Leurs institutions nationales, leurs habitudes domestiques, leur vie publique et privée, tout dépendait de ce commandement, ainsi a dit l'Éternel. Il n'y avait pas lieu à ce qu'un membre de la congrégation pût dire « Je ne puis voir ceci » ou « Je ne puis comprendre ou approuver cela ». Un tel langage aurait été considéré comme un fruit de la volonté propre. Tout aussi bien aurait-il pu dire « Je ne puis être d'accord avec l'Éternel ». Dieu lui-même avait donné pour toutes choses des directions si claires et si simples qu'il n'y avait plus de place pour des discussions humaines. Dans toute l'économie mosaïque, il n'y avait pas la largeur d'un cheveu où l'homme pût faire entrer son opinion ou son jugement. L'homme ne pouvait rien ajouter à ce vaste système d'ombres et de types divins, exposé dans un langage si simple et si compréhensible que tout ce qu'Israël avait à faire, c'était d'obéir, non pas raisonner, discuter, argumenter, mais obéir. Hélas, ils faillirent, nous le savons. Ils firent leur propre volonté, ils suivirent leur propre chemin. Ils firent chacun ce qui était bon à ses yeux, Juges 21, verset 25.
En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui était bon à ses yeux.
Ils s'écartèrent de la parole de Dieu pour suivre l'imagination et les conseils de leur méchant cœur. Ils s'attirèrent ainsi la colère et l'indignation dont ils souffrent encore aujourd'hui. Mais tout cela n'a rien à faire avec le point qui nous occupe maintenant. Israël avait les oracles de Dieu, et ces oracles étaient divinement suffisants pour le guider en toutes choses. Il n'y avait aucune place laissée pour les commandements et les doctrines des hommes. La parole de l'Éternel prévoyait chaque circonstance, répondait à toutes les exigences, et cette parole était si claire qu'un commentaire humain était inutile. L'Église de Dieu est-elle plus mal partagée que l'Israël de jadis, sous le rapport de la direction et de l'autorité? Les chrétiens sont-ils chargés de choisir et d'organiser eux-mêmes ce qui concerne le culte et le service de Dieu? Y a-t-il là matière à discussion humaine? La parole de Dieu est-elle suffisante ou ne l'est-elle pas? A-t-elle laissé quelque chose sans y pourvoir? Écoutons le témoignage suivant. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. De Timothée 3, versets 16 et 17. Voilà qui est concluant. L'Écriture sainte renferme tout ce qu'il faut à l'homme de Dieu pour le rendre accompli et propre à tout ce qui peut être appelé une bonne œuvre. Or, si cela est vrai quant à l'homme de Dieu individuellement, cela est vrai aussi quant à l'Église de Dieu collectivement. L'Écriture est pleinement suffisante pour l'un et pour l'autre, elle l'est pour tous. Dieu soit béni de ce qu'il en est ainsi. Quelle grâce immense d'avoir un guide écrit. Sans cela, que ferions-nous? Que deviendrions-nous? De quel côté nous tournerions-nous? Si nous étions laissés à la merci des traditions et des arrangements humains pour les choses de Dieu, quelle confusion désespérante! Quel conflit d'opinions! On nous dira peut-être que bien que nous soyons en possession des saintes Écritures, nous avons néanmoins des sectes, des partis, des confessions, des écoles théologiques innombrables. D'où cela vient-il? Simplement de ce que nous refusons de nous soumettre moralement à l'autorité de l'Écriture sainte. C'est le secret du mal, la vraie cause de toutes les sectes et de tous les partis qui sont la honte et l'opprobre de l'Église de Dieu. C'est en vain que l'on prendra la défense de cet état de choses en disant qu'il est le résultat naturel du libre examen et du jugement personnel dont se vante et se glorifie la chrétienté protestante. Nous ne saurions croire un instant qu'une raison semblable subsistera devant le tribunal du Christ. Nous croyons au contraire que cette liberté de pensée, que cette indépendance de jugement si vantée, sont en opposition directe avec l'esprit d'obéissance implicite et respectueuse qui est dû à notre adorable Seigneur et Maître. De quel droit un serviteur exercerait-il son jugement personnel lorsque son Maître lui a clairement exprimé sa volonté? Son devoir est simplement d'obéir, non de raisonner ou de questionner. Il manque à ce devoir en exerçant son jugement particulier. On convient de tout cela lorsqu'il s'agit des choses terrestres, mais dans les choses de Dieu, les hommes se croient libres de juger par eux-mêmes. C'est une fatale erreur. Dieu nous a donné sa parole, et cette parole est si claire que nul ne saurait s'y tromper. Si donc nous nous laissions tous guider par elle, si nous nous inclinions tous dans un esprit d'implicite obéissance devant sa divine autorité, il ne saurait y avoir ni opinion contradictoire ni secte diverse. Il est impossible que l'Écriture sainte puisse enseigner des doctrines contradictoires. Elle ne saurait prêcher à l'un l'anglicanisme, à l'autre le presbytérianisme, à un troisième le méthodisme. Elle ne saurait absolument pas donner des bases opposées à diverses écoles de pensée. Ce serait faire insulte au volume divin que de lui attribuer toutes les tristes divisions de l'Église professante. Une pensée aussi impie fera frissonner une âme pieuse. L'Écriture ne peut se contredire. Par conséquent, si deux hommes ou si 10 000 000 d'hommes sont enseignés exclusivement par l'Écriture, ils penseront tous de même.
Voyez ce que l'apôtre dit à l'église de Corinthe et à nous aussi. Or, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Remarquez la force de cet appel, à parler tous un même langage et à ce qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais que vous soyez parfaitement unis dans un même sentiment et dans un même avis. 1 Corinthiens 1, verset 10. Que fallait-il faire pour obtenir ce résultat béni? Fallait-il que chacun se permît de juger par soi-même? Hélas, ce fut précisément cela qui donna naissance à toutes les divisions, à toutes les disputes de l'assemblée de Corinthe, et lui attira la sévère remontrance du Saint-Esprit. Ces pauvres Corinthiens croyaient qu'ils avaient le droit de penser, de juger, de choisir par eux-mêmes, et quel en fut le résultat? Car mes frères, il m'a été dit de vous, par ceux qui sont de chez Chloé, qu'il y a des dissensions parmi vous. Or, voici ce que je dis, c'est que chacun de vous dit, « Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. » Le Christ est-il divisé? 1 Corinthiens 1, versets 11 et 12. Nous avons ici le jugement particulier et ses tristes et immanquables fruits. Un homme a tout autant de droits qu'un autre à juger par lui-même, et aucun n'a le droit d'imposer ses opinions à ses semblables. Que faut-il donc faire? Jeter aux quatre vents nos pensées particulières et nous soumettre avec révérence à l'autorité suprême et absolue de l'Écriture. Sinon, comment l'apôtre pouvait-il supplier les Corinthiens de parler tous le même langage et d'être parfaitement unis dans un même sentiment et dans un même avis? Qui est-ce qui devait prescrire le langage qu'ils devaient tous parler? Dans le sentiment ou dans l'avis, de qui devait-il être parfaitement uni? Est-ce que tel membre de l'assemblée, quelque doué qu'il pût être, avait le moindre droit de prescrire ce que ses frères devaient dire, penser ou croire? Certainement non. Il n'y avait qu'une autorité absolue, parce qu'elle était divine, à laquelle tous étaient tenus, ou plutôt avaient le privilège de se soumettre. Les opinions humaines, la conscience, la raison, le jugement sont sans aucune valeur en matière d'autorité. La parole de Dieu est la seule autorité, et si nous sommes tous gouvernés par elle, nous parlerons tous le même langage, et il n'y aura pas de division parmi nous, car nous serons parfaitement unis dans un même sentiment et dans un même avis. Condition admirable, mais qui, hélas, n'est pas actuellement celle de l'Église de Dieu. C'est pourquoi il est parfaitement évident que nous ne sommes pas tous gouvernés par une seule et même autorité suprême, absolue et suffisante, la voix de l'Écriture sainte, cette voix bénie qui n'a jamais de note discordante, qui a toujours une harmonie divine pour l'oreille sanctifiée. Voilà la racine de tout le mal. L'Église s'est éloignée de l'autorité de Christ, telle qu'elle est démontrée dans sa parole. Tant que cela n'est pas reconnu, il est inutile de discuter les droits des divers systèmes ecclésiastiques ou théologiques. Si un homme ne reconnaît pas que c'est son devoir sacré d'éprouver tout système, quel qu'il soit, au creuset de la parole de Dieu, c'est en vain qu'on discutera avec lui. Si nous n'avons pas une autorité divine, un guide infaillible, comment est-il possible à qui que ce soit d'être certain qu'il marche dans le bon chemin? S'il est vrai que nous avons la liberté de choisir nous-mêmes parmi les innombrables chemins qui nous entourent, alors adieu à toute certitude, à la paix de l'âme, au repos du cœur, à toute sainte stabilité. Si nous ne pouvons pas dire de la place que nous occupons, du chemin que nous suivons et du travail dans lequel nous sommes engagés, c'est là ce que le Seigneur a commandé, nous pouvons être sûrs que nous sommes dans une fausse position, et plus tôt nous la quitterons, mieux ce sera. Grâce à Dieu, son enfant ou son serviteur n'est pas obligé de demeurer un instant en contact avec ce qui est mal. Qu'il se retire de l'iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur, de Timothée 2, verset 19. Mais comment saurons-nous ce qui est iniquité? Par la parole de Dieu. Tout ce qui est contraire à l'Écriture, dans la doctrine ou dans la morale est iniquité, et je dois m'en retirer, coûte que coûte. C'est une question individuelle, quiconque. Celui qui a des oreilles, Matthieu 11, verset 15.
Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.
Celui qui vaincra, si quelqu'un entend ma voix, Apocalypse 3, verset 20 et 21.
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône.
Voilà le grand point, c'est la voix de Christ, non celle de cet excellent homme-ci ou de cet excellent homme-là. Ce n'est pas la voix de l'Église, celle des pères ou celle des conciles, mais la voix de notre bien-aimé Seigneur et Maître. C'est la conscience individuelle mise en contact direct avec la voix de Christ, la parole de Dieu vivante et éternelle, l'Écriture sainte. Pour être au clair et à l'abri de toute incertitude, il nous fallait une autorité suprême et inattaquable, un fanal immuable, et, grâce à Dieu, nous l'avons. Dieu a parlé, il nous a donné sa parole, et c'est, à la fois, notre devoir, notre privilège, notre sécurité morale et notre bonheur que de lui obéir. Il est de toute importance que rien ne vienne se placer entre la conscience et la révélation divine. On parle de l'autorité de la voix de l'Église. De quelle Église? Est-ce l'Église grecque, latine, protestante, presbytérienne? Toutes diffèrent entre elles, et il y a même des partis, des sectes, des dissensions dans chacune d'elles. Les conciles ont différé. Les pères se sont disputés, les papes se sont excommuniés l'un l'autre. Dans l'Église anglicane, nous avons la haute Église, la basse et la large, chacune différent des autres. Dans l'Église d'Écosse ou presbytérienne, il y a aussi trois grandes divisions. Et si, dans sa perplexité, une pauvre âme angoissée se détourne de ces grands systèmes pour chercher la lumière parmi les dissidents, s'en trouvera-t-elle mieux? Cher lecteur, le cas est sans espoir. L'Église professante tout entière s'est révoltée contre l'autorité de Christ et ne saurait être un guide ou une autorité pour personne. Dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, nous voyons l'Église sous le jugement et l'appel sept fois répété est « Que celui qui a des oreilles écoute. » Écoute quoi? La voix de l'Église? Impossible. Le Seigneur ne saurait nous dire d'écouter la voix de ce qui est soi-même sous le jugement. Qui doit-on donc écouter? Qu'il écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Mais où cette voix se fait-elle entendre? Seulement dans les saintes Écritures données de Dieu, dans sa grâce infinie, pour guider nos âmes dans le chemin de la paix et de la vérité, malgré la ruine totale de l'Église et les ténèbres et la confusion dans la chrétienté baptisée. Le langage humain ne saurait trouver de termes pour exprimer le bonheur de posséder une autorité et un guide divin et infaillible pour notre route ici-bas. Mais rappelons-nous que nous sommes responsables de la manière dont nous suivons ce guide et nous soumettons à cette autorité. Il est vain et même dangereux moralement de faire profession d'avoir un guide et une autorité divine si nous ne nous y soumettons pas entièrement. C'est là ce qui caractérisait les Juifs au jour de notre Seigneur. Ils avaient les Écritures, mais ils ne leur obéissaient pas, et l'un des plus tristes caractères de la chrétienté de notre temps, c'est qu'elle se vante de posséder la Bible, tout en mettant hardiment de côté son autorité. Nous sentons profondément le sérieux de tout ceci et nous le mettons sur la conscience du lecteur chrétien. La parole de Dieu est virtuellement mise de côté parmi nous. De toutes parts, on pratique et on sanctionne des choses qui, non seulement ne sont pas fondées sur l'Écriture, mais qui lui sont diamétralement opposées. Nous sommes persuadés que ce qui caractérisera tous ceux qui veulent marcher fidèlement dans ces dernières heures de l'histoire terrestre de l'Église, c'est un profond respect pour la parole de Dieu et un attachement sincère à la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ces deux choses sont liées ensemble par un anneau sacré et indestructible. L'Éternel notre Dieu nous parla en Horeb, disant, « Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez, et allez à la montagne des Amoréens, et dans tous les lieux voisins, dans la plaine, dans la montagne, et dans le pays plat, et dans le midi, et sur le rivage de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, versets 6 et 7. Nous verrons, en parcourant ce livre, que l'Éternel s'y adresse à son peuple d'une manière beaucoup plus directe et plus simple que dans les trois livres précédents. Nous savons, par le livre des Nombres, que les mouvements du camp étaient dirigés par la nuée et annoncés par le son de la trompette. Mais, dans ce cinquième livre, il n'est fait allusion ni à l'un ni à l'autre. C'est beaucoup plus simple et familier. L'Éternel, notre Dieu, nous parla en Horeb disant, « Vous avez assez demeuré dans cette montagne. » C'est de toute beauté et cela nous rappelle l'admirable simplicité des temps des patriarches, lorsque l'Éternel leur parlait comme un homme parle à son ami. Mais dans l'Exode, le Lévitique et les Nombres, nous avons quelque chose de tout à fait différent. Nous y voyons se déployer un vaste système de types et d'images, de rites, d'ordonnances et de cérémonies qui étaient imposées au peuple pour un temps et dont la signification nous est donnée dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux 9, versets 8 à 10.
L'Esprit Saint indiquant ceci, le chemin des lieux saints n'a pas encore été manifesté, tandis que le premier tabernacle a encore sa place, lequel est une figure pour le temps présent, dans lequel sont offerts des dons et des sacrifices qui ne peuvent pas rendre parfait quant à la conscience celui qui rend le culte, culte qui consiste seulement en viande, en breuvage, en diverses ablutions, ordonnances charnelles imposées jusqu'au temps du redressement.
Sous ce système, les enfants d'Israël étaient tenus à distance de Dieu. Il n'en était pas pour eux comme du temps de leur père dans le livre de la Genèse. Dieu était comme voilé. Les traits principaux des cérémonies lévitiques étaient, quant à ce qui concernait le peuple, servitude, obscurité, éloignement. Mais, d'un autre côté, leurs types et leurs images représentaient le grand sacrifice qui est le fondement de tous les conseils merveilleux de Dieu, et par le moyen duquel il peut, en toute justice et d'accord avec l'amour de son cœur, s'acquérir un peuple qui lui est cher, à la louange de la gloire de sa grâce. Nous l'avons déjà dit, nous trouverons comparativement peu de rites et de cérémonies dans le livre du Deutéronome. L'Éternel communique plus directement avec le peuple. Les sacrificateurs mêmes se présentent rarement à nous, et quand il est fait allusion à eux, c'est au point de vue moral plutôt que cérémoniel. Nous en aurons la preuve en avançant dans notre étude. Éternel, notre Dieu, nous parla en Horeb, disant, « Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez, et allez à la montagne des Amoréens. » Quel privilège d'avoir l'Éternel si près d'eux, s'intéressant à tous leurs mouvements et à tout ce qui les concernait. Ils savaient combien de temps ils devaient rester dans un endroit et de quel côté se diriger ensuite. Que leur restait-il donc à faire? Quel était leur devoir pur et simple? Obéir. Là se trouvait le secret de leur paix, de leur bonheur, de leur sécurité morale. Ils n'avaient pas à s'inquiéter de leurs mouvements. Tout leur voyage était arrangé pour eux par celui qui connaissait chaque pas du chemin, depuis Horeb à Kadès-Barnéa. Ils n'avaient qu'à vivre au jour le jour, dans une heureuse dépendance de lui. Position bénie et privilégiée, mais elle demandait une volonté brisée. Si, lorsque l'Éternel avait dit « Vous avez assez demeuré en cette montagne », ils avaient, au contraire, décidé d'y rester un peu plus longtemps, ils y seraient restés sans lui, sa compagnie, ses conseils et son secours ne leur étaient assurés que sur le chemin de l'obéissance. Il en est de même de nous. Nous avons le précieux privilège de pouvoir remettre tout ce qui nous concerne entre les mains non seulement du Dieu de l'Alliance, mais d'un Père qui nous aime. Sa bonne parole nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais, en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est alors que la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » Philippiens 4, versets 6 et 7. Mais on demandera peut-être, comment Dieu dirige-t-il son peuple maintenant? Nous ne pouvons espérer d'entendre sa voix nous disant ce que nous avons à faire. Nous pouvons être guidés de deux manières, par la parole et par le Saint-Esprit. Et nous devons nous rappeler que ces deux choses seront toujours d'accord. Une personne peut se croire amenée par le Saint-Esprit à suivre une certaine ligne de conduite, dont les conséquences sont en opposition avec la parole de Dieu. Son erreur sera mise en évidence. Il est très dangereux de se fier à ses impressions ou d'agir par impulsion. Les conséquences les plus fatales peuvent en résulter. Mais nous pouvons nous fier à l'Écriture sans aucune hésitation, et nous verrons toujours que l'homme conduit par le Saint-Esprit n'agira jamais en contradiction avec la parole de Dieu. C'est ce que nous pouvons appeler un axiome de la vie divine, une règle immuable du christianisme pratique. Que n'y a-t-on prêté plus d'attention dans toutes les périodes de l'histoire de l'Église? Un autre côté de cette question demande encore notre sérieuse considération. On entend souvent parler de la divine providence comme d'un guide auquel on peut se fier. Il se peut que ce ne soit là qu'une manière d'exprimer l'idée d'être guidé par les circonstances, ce qui est loin d'être une direction convenable pour un chrétien. Sans doute, le Seigneur nous fait connaître quelquefois sa volonté et nous montre notre chemin d'une manière que nous appelons providentielle. Mais nous devons vivre bien près de lui pour pouvoir discerner convenablement ce fait. Sans cela, il se peut que ce que nous appelons circonstances providentielles ne soient que des pierres d'achoppement sur le sentier de l'obéissance. Les circonstances extérieures doivent être pesées en la présence de Dieu et jugées à la lumière de sa parole, sans quoi elles peuvent nous conduire aux plus graves erreurs. Bref, la parole de Dieu est la pierre de touche parfaite pour toute chose. Les circonstances extérieures, les impressions intimes et les sentiments, tout doit être placé dans la lumière de l'Écriture sainte et jugé là calmement et sérieusement. C'est le vrai chemin de la paix, de la sûreté et de la bénédiction pour tout enfant de Dieu. On peut répondre à tout ceci que nous ne saurions nous attendre à trouver un passage de la Bible pour nous guider dans les mille détails de notre vie journalière. en effet, mais il y a dans l'Écriture certains grands principes qui, appliqués à propos, seront une direction divine, même dans les cas où nous ne pourrions trouver un texte formel. En outre, nous avons l'assurance certaine que notre Dieu peut guider ses enfants en toutes choses et qu'il le fait. Par l'Éternel, les pas de l'homme sont affermis. Psaume 37, verset 23. Il fera marcher dans le droit chemin les débonnaires et il enseignera sa voie aux débonnaires. Psaume 25, verset 9. Je te conseillerai, ayant mon œil sur toi. Psaume 32, verset 8. Il peut nous montrer sa volonté à l'égard de telle ou telle chose. Sans cela, où en serions-nous? Dans quelque cas que ce soit, il peut nous donner, d'une manière parfaite, la certitude que nous faisons sa volonté, et, sans cette certitude, nous ne devrions jamais faire un pas. Si nous sommes indécis, restons tranquilles et attendons. Souvent, il arrive que nous nous tourmentons pour des choses que Dieu ne nous demande pas du tout. Quelqu'un disait un jour à un ami, « Je ne sais de quel côté me tourner. » « Eh bien, ne vous tournez d'aucun côté », fut la sage réponse. Mais ici se place un point moral de toute importance. C'est notre état d'âme qui joue ici un grand rôle. Ce sont les débonnaires qu'il fera marcher dans la justice et auquel il enseignera sa voie. Si nous sommes humbles et méfiants de nous-mêmes, si nous comptons sur Dieu en simplicité de cœur, il nous dirigera sûrement. Et c'est un fatal manque de droiture que de demander conseil à Dieu lorsque nous avons un parti pris et que notre volonté est en jeu. Prenez l'exemple de Josaphat dans 1 Roi 22. Et il arriva en la troisième année que Josaphat, roi de Juda, descendit vers le roi d'Israël, faute grave pour commencer. Et le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth de Galaad est à nous, et nous nous taisons sans la reprendre de la main du roi de Syrie ? » Et il dit à Josaphat, « Viendras-tu avec moi à la guerre, à Ramoth de Galaad ? » Et Josaphat dit au roi d'Israël, « Moi, je suis comme toi. » Mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et, comme nous le lisons en 2 Chroniques 18, verset 3, « Je serai avec toi dans la guerre. » Nous voyons ici que son parti était pris avant qu'il ne pensât à consulter Dieu dans cette affaire. Il était dans une fausse position. Il était tombé dans le piège de l'ennemi, faute de posséder un œil simple. Il n'était donc pas en état de recevoir la direction divine. Il était décidé à faire sa propre volonté, et le Seigneur lui en laisse recueillir les fruits. Sans la miséricorde infinie de Dieu, il serait tombé sous les coups des Syriens, et on l'aurait emporté mort du champ de bataille. Il est vrai qu'il avait dit au roi d'Israël, « Enquiers-toi aujourd'hui, je te prie, de la parole de l'Éternel ». Mais à quoi cela servait-il après qu'il s'était engagé à faire cette guerre? S'il eût été dans un bon état d'âme, il n'aurait jamais demandé conseil pour un cas pareil. Son état d'âme étant mauvais, sa position était fausse, et ses intentions en opposition directe avec les pensées et la volonté de Dieu. Par conséquent, quoiqu'il entendît le messager de l'Éternel prononcer un jugement solennel sur toute cette expédition, il n'en suivit pas moins son propre chemin et fut bien près d'y perdre la vie. Nous voyons la même chose au chapitre 42 de Jérémie. Les Israélites s'adressent au prophète pour savoir s'ils doivent descendre en Égypte. Mais ils étaient déjà tout décidés. Ils voulaient faire leur propre volonté. S'ils avaient été humbles, ils n'auraient pas eu besoin de demander conseil à cet égard. Et ils dirent à Jérémie, « L'Éternel soit entre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons selon toute la parole pour laquelle l'Éternel ton Dieu t'enverra vers nous. Soit bien, soit mal, nous écouterons la voix d'Éternel notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin qu'il nous arrive du bien, car nous écouterons la voix de l'Éternel notre Dieu. » Tout cela paraît très bon et rempli de promesses. Mais remarquez la suite. Lorsqu'ils virent que le jugement et le conseil de Dieu ne s'accordaient pas avec leur volonté, tous ces hommes orgueilleux parlèrent à Jérémie disant, chapitre 43, verset 2, « C'est un mensonge que tu dis. L'Éternel, notre Dieu, ne t'a pas envoyé pour nous dire « N'allez point en Égypte pour y séjourner. » L'orgueil et la volonté propre étaient à l'œuvre. Tous ses vœux et toutes ses promesses étaient illusoires. Vous vous êtes séduit vous-même dans vos âmes, dit Jérémie, quand vous m'avez envoyé vers l'Éternel votre Dieu, disant, prie l'Éternel notre Dieu pour nous, et selon tout ce que l'Éternel notre Dieu dira, ainsi déclare-nous, et nous le ferons. Tout aurait bien été si la réponse divine se fût accordée avec leur volonté dans cette affaire. Mais comme elle lui était en opposition, il la repousse entièrement. Combien souvent n'en est-il pas ainsi? La parole de Dieu ne convient pas à l'homme. Elle le juge, elle est en directe opposition à sa volonté. Elle dérange ses plans, c'est pourquoi il la rejette. La volonté et la raison humaine sont toujours en antagonisme avec la parole. Le chrétien doit donc mettre de côté l'une et l'autre, s'il désire réellement être conduit par Dieu. Une volonté non brisée et l'aveugle raison ne nous mèneront que dans les ténèbres, la misère et la désolation. Jonas voulut aller à Tarsis quand il aurait dû aller à Ninive, et la conséquence fut qu'il se trouva dans le sein du sépulcre, avec les algues enveloppant sa tête. Jonas 2, verset 6.
Les eaux m'ont environné jusqu'à l'âme, l'abîme m'a entouré, les algues ont enveloppé ma tête.
Ainsi aussi Josaphat voulut monter à Ramoth de Galad, quand il aurait dû être à Jérusalem. La conséquence fut qu'il se trouva environné par les épées des Syriens. Le reste du peuple, au jour de Jérémie, voulut descendre en Égypte, au lieu de rester à Jérusalem. La conséquence fut qu'ils moururent par l'épée, par la famine et la peste, dans ce pays d'Égypte où ils désiraient aller pour y séjourner. Il en sera toujours ainsi. Le chemin de la propre volonté est un chemin de ténèbres et de misère. Le chemin de l'obéissance est un sentier de lumière et de bénédiction, un sentier sur lequel les rayons de la faveur divine brillent toujours avec éclat. Ce chemin peut paraître étroit, rude et solitaire à l'œil humain, mais pour l'âme obéissante, c'est un sentier de vie, de paix et de sécurité morale.
Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante
qui va croissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi, Proverbe 4, verset 18. Sentier précieux, puissions-nous tous être trouvés y marchant d'un pas résolu. Avant de quitter ce sujet si pratique de l'obéissance et de la direction divine, nous prierons nos lecteurs de s'arrêter avec nous quelques instants sur un beau passage du 11e chapitre de Luc. Ils le trouveront rempli d'instructions précieuses. La lampe du corps, c'est ton œil. Lorsque ton œil est simple, ton corps tout entier aussi est plein de lumière. Mais lorsqu'il est méchant, ton cœur aussi est ténébreux. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Si donc ton corps tout entier est plein de lumière, n'ayant aucune partie ténébreuse, il sera tout plein de lumière, comme quand la lampe t'éclaire de son éclat, verset 34-36. Rien ne peut égaler la beauté et la force morale de ce passage. Tout d'abord, nous avons l'œil simple. Il est essentiel pour la jouissance de la direction divine. Il indique une volonté brisée, un cœur honnêtement résolu à faire la volonté de Dieu, sans prétexte personnel ou autre, et quelle que puisse être cette volonté. Quand l'âme est dans cette situation, la lumière divine y resplendit, et le corps en est rempli. D'où il suit que, si le corps n'est pas plein de lumière, c'est que l'œil n'est pas simple. La volonté propre, des motifs divers, des intérêts personnels sont en jeu. Nous ne sommes pas droits devant Dieu. Dans ce cas, la lumière que nous faisons profession d'avoir est ténèbre. Et il n'y a pas de ténèbres plus profondes et plus terribles que ces ténèbres judiciaires qui s'étendent sur un cœur gouverné par la propre volonté, tout en professant d'avoir la lumière de Dieu. Cela se verra avec toute son horreur dans la chrétienté lorsque sera révélé l'inique que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue de Thessaloniciens 2, verset 8. Combien cela est terrible, et avec quelle solennité cela s'adresse à l'Église professante tout entière, à vous et à moi aussi, chers lecteurs. La lumière non utilisée devient ténèbre. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres, Matthieu 6, verset 23. D'autre part, une faible lumière, sincèrement suivie, augmentera sûrement, car à celui qui a, il sera donné davantage. Ce progrès moral est admirablement exposé au verset 36 de Luc 11. Si donc ton corps tout entier est plein de lumière, n'ayant aucune partie ténébreuse, pas de coin fermé aux rayons célestes, pas de réserve déloyale, tout ton être moral sera exposé à l'action de la lumière divine. De plus, l'âme obéissante a non seulement une lumière pour son propre sentier, mais cette lumière brille au dehors, de sorte que d'autres la voient, comme l'éclat brillant d'une lampe. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, Matthieu 5, verset 16. Le sentier du juste est celui de la sagesse céleste, de la paix parfaite. N'oublions jamais que c'est notre grand privilège d'être dirigé par Dieu dans les plus petits détails de notre vie de chaque jour. Celui qui n'est pas ainsi guidé bronchera souvent. Il fera plus d'une chute, plus d'une triste expérience. Quel privilège béni que de marcher, jour après jour, dans le sentier tracé pour nous par notre Père, sentier que l'œil de l'aigle n'a point vu, que le lionceau n'a point foulé, sentier d'une sainte obéissance, dans lequel les humbles et les petits se trouveront toujours à la louange et à la gloire de celui qui le leur a ouvert. Dans la suite de notre chapitre, Moïse répète au peuple, dans un langage d'une touchante simplicité, les faits relatifs à la nomination des juges et à la mission des espions. Ici, Moïse attribue l'établissement des juges à sa propre suggestion. La mission des espions fut proposée par le peuple. Ce cher serviteur de Dieu trouvait le poids de la congrégation trop lourd pour lui. Il était lourd en effet, bien que nous sachions que la grâce de Dieu était amplement suffisante pour tous les besoins, et de plus, que cette grâce pouvait agir tout aussi bien avec un seul homme qu'avec 70. Nous pouvons néanmoins comprendre la crainte qu'éprouvait l'homme le plus doux de la terre relativement à la responsabilité d'une charge aussi importante. Le langage qu'il emploie pour exprimer cette crainte est touchant au plus haut degré. Et je vous parlais en ce temps-là disant, je ne puis moi seul vous porter. Non, assurément, nul homme ne l'aurait pu. Mais Dieu était là pour répondre aux besoins de tous les moments. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié, et vous voici aujourd'hui en multitude, comme les étoiles des cieux. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, ajoute à votre nombre mille fois ce que vous êtes, et vous bénisse, comme il vous l'a dit. Versets 10 à 12. Belle parenthèse, souhait d'un cœur généreux. Comment porterai-je moi seul votre charge et votre fardeau et vos contestations? Le secret de beaucoup de leurs charges et de leurs fardeaux, c'est qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux. Il y avait des différends, des controverses et des procès. Et qui aurait pu porter un tel poids? N'en aurait-il pas dû être autrement? S'ils eussent marché d'accord, il n'y aurait pas eu de procès à juger. Et par conséquent, nul besoin de juges pour les juger. Si chaque membre de la congrégation eût cherché l'intérêt, l'avantage, le bonheur de ses frères, il n'y aurait pas eu de querelle. Il n'en était point ainsi d'Israël dans le désert. Et ce qui est bien plus humiliant, il n'en est pas ainsi de l'Église de Dieu, quoique nos privilèges soient bien plus grands. À peine l'assemblée eut-elle été formée par la présence du Saint-Esprit, que des accents de murmure et de mécontentement s'y firent entendre. Et pourquoi? À propos d'une négligence réelle ou imaginaire, acte 6. Quoi qu'il en soit, le moi était à l'œuvre. Si la négligence était imaginaire, les Grecs étaient blâmables. Si elle était réelle, alors les Hébreux étaient blâmables. Il arrive ordinairement, en pareil cas, qu'il se trouve des fautes des deux côtés. Mais le seul moyen d'éviter les disputes, les dissensions et les murmures, c'est de fouler aux pieds le moi et de rechercher sincèrement le bien des autres. Si cela eût été compris et pratiqué dès le commencement, combien la tâche de l'historien sacré eût été différente. Mais hélas, l'histoire de l'Église professante n'est, dès son début, qu'un récit déplorable et humiliant de divisions et de divergences. En présence du Seigneur lui-même, dont la vie tout entière était une vie d'abnégation complète, les disciples se disputent pour savoir lequel d'entre eux sera le plus grand. Quiconque connaît la vraie grandeur morale qui consiste à dépouiller le moi ne recherchera pas la meilleure place. Être près de Christ satisfait tellement un cœur humble qu'il ne fait aucun cas des honneurs ou des distinctions. Mais quand le moi domine, on voit paraître l'envie et la jalousie, les dissensions, les querelles et tout ce qui est mauvais. Voyez la scène entre les deux fils de Zébédée et leurs dix frères au chapitre 10 de Marc.
Marc 10, versets 35 à 45. Et Jacques et Jean, fils de Zébédée, viennent à lui disant, « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous tout ce que nous te demanderons. » Et il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Et ils lui dirent, « Accorde-nous que nous soyons assis, l'un à ta droite et l'un à ta gauche dans ta gloire. » Et Jésus leur dit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois, ou être baptisé du baptême dont moi je serai baptisé ?» Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Et Jésus leur dit, « Vous boirez bien la coupe que moi je bois, et vous serez baptisé du baptême dont moi je serai baptisé. Mais de s'asseoir à ma droite ou à ma gauche n'est pas à moi pour le donner, sinon à ceux pour lesquels cela est préparé. » Et les dix, l'ayant entendu, en conçurent de l'indignation à l'égard de Jacques et de Jean. Et Jésus, les ayant appelés auprès de lui, leur dit, « Vous savez que ceux qui sont réputés gouverner les nations dominent sur elles, et que les grands d'entre eux usent d'autorité sur elles. Mais il n'en est pas ainsi parmi vous. Mais quiconque voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque d'entre vous voudra devenir le premier sera l'esclave de tous. Car aussi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. »
Le moi en était la cause. Les deux premiers pensaient à se procurer une bonne place dans le royaume, et les dix autres en conçurent de l'indignation contre eux. Si chacun avait mis de côté le moi et recherché le bien des autres, cette scène n'aurait jamais eu lieu. Il est superflu de multiplier les exemples. Chaque siècle de l'histoire de l'Église prouve la vérité de notre assertion, que l'égoïsme et ses viles menées sont les causes qui produisent la division, depuis les temps des apôtres jusqu'à nos jours. En revanche, on verra que l'oubli de soi et de ses intérêts est le secret de la paix, de la concorde et de l'amour fraternel. Si nous apprenons à mettre le moi de côté pour rechercher sincèrement la gloire de Christ et le bien de son peuple bien-aimé, alors nous n'aurons guère de procès à juger. Mais revenons à notre chapitre. Donnez-vous des hommes sages et intelligents et connus selon vos tribus, et je les établirai chefs sur vous. Et vous me répondîtes et dites, la chose que tu as dit de faire est bonne. Et je pris les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, des hommes préparés par Dieu et possédant, parce qu'ils l'a mérité, la confiance de la congrégation. Et je les établis chefs sur vous, chefs de milliers, et chefs de centaines, et chefs de cinquantaines, et chefs de dizaines, et officiers sur vos tribus, versets 13 à 15. Admirable arrangement. Puisqu'il y avait lieu de le faire, rien n'était mieux adapté au maintien de l'ordre que ces degrés d'autorité allant du gouverneur de dizaines au gouverneur de milliers. Le législateur étant à la tête de tous, et lui-même en communication directe avec le Dieu d'Israël. Il n'est pas fait allusion ici au fait rapporté au chapitre 17 de l'Exode, savoir que l'établissement de ces juges se fit à la suggestion de Jéthro, le beau-père de Moïse. Il n'est non plus pas fait mention de la scène du chapitre 11 des Nombres. Nous ferons remarquer au lecteur que c'est là une des nombreuses preuves que ce livre est loin d'être une pure répétition des autres sections du Pentateuch. Ce livre a un caractère qui lui est particulier, et la manière dont les faits y sont présentés est en parfait accord avec le but du Saint-Esprit, qui était de parler au cœur des enfants d'Israël afin d'obtenir ce grand résultat, objet tout spécial du livre, savoir une obéissance filiale à toutes les ordonnances de l'Éternel, leur Dieu. Les incrédules et les rationalistes voudraient nous faire voir des contradictions dans les divers récits donnés par les différents livres, mais le lecteur pieux rejettera avec une sainte indignation une telle suggestion qui procède directement du père du mensonge, cet ennemi déclaré de la révélation. Si nous consentons à être aussi simples qu'un petit enfant, nous jouirons de la révélation de l'amour du Père, telle qu'elle nous est donnée par le Saint-Esprit dans l'Écriture. De notre côté, ceux qui se croient sages et comptent sur leur savoir, leur philosophie et leur raison, qui se croient compétents pour juger la parole de Dieu et, par conséquent, Dieu lui-même, ceux-là seront laissés à leur aveuglement et à leur endurcissement de cœur. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas fait de la sagesse du monde une folie? 1 Corinthiens 1, verset 20. Si quelqu'un veut être sage, qu'il devienne fou. Tel est le secret de toute l'affaire. Continuons maintenant notre étude. Et je commandai à vos juges en ce temps-là, disant, « Écoutez les différends entre vos frères, et jugez avec justice entre un homme et son frère, et l'étranger qui est avec lui. Vous ne ferez point exception des personnes dans le jugement. Vous entendrez aussi bien le petit que le grand. Vous n'aurez peur d'aucun homme, car le jugement est de Dieu. Et l'affaire qui sera trop difficile pour vous, vous me la présenterez, et je l'entendrai. » Versets 16 et 17. Quelle sainte et juste impartialité! Dans tous les cas de divergence, on devrait entendre les deux parties, sans aucune acception de personne. Le jugement devait se baser, non sur les impressions personnelles, mais sur les faits clairement établis. La position et les circonstances des plaignants n'étaient point prises en considération. La justice seule devait décider la question. Vous entendrez aussi bien le petit que le grand. Le pauvre devait avoir la même mesure que le riche, l'étranger que celui qui était né au pays. Combien tout cela est rempli d'instructions pour nous tous. Il est vrai que nous ne sommes pas tous appelés à être des juges, des chefs ou des gouverneurs, mais les grands principes moraux posés dans le passage cité plus haut sont de toute importance pour chacun de nous, car il se présente constamment des cas qui en demandent l'application directe. Dans quelque position que nous soyons, nous pouvons être appelés à voir des divergences entre nos frères, des cas de torts réels ou imaginaires, et il nous est nécessaire d'être divinement instruits sur ce que nous avons à faire dans de semblables occasions. Dans les cas de cette nature, nous nous serions trop nous rappeler que notre jugement doit être basé sur tous les faits de l'un et de l'autre côté. Nous ne nous laisserons pas influencer par nos impressions, car nous savons qu'elles peuvent nous tromper. Il nous faut des faits réels et irrécusables, des faits établis par deux ou trois témoins, comme l'Écriture le dit si clairement. Deutéronome 17, verset 6.
Sur la déposition de deux témoins ou de trois témoins, celui qui doit mourir sera mis à mort. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin.
Matthieu 18, verset 16.
Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes, afin que, par la bouche de deux ou de trois témoins, toute parole soit établie.
2 Corinthiens 13, verset 1.
C'est ici la troisième fois que je viens à vous. Par la bouche de deux ou de trois témoins, toute affaire sera établie.
1 Timothée 5, verset 19.
Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est quand il y a deux ou trois témoins.
En outre, nous ne devons jamais nous borner, dans une affaire à juger, à une affirmation ex parte. Chacun est sujet, même avec les meilleures intentions, à colorer ses assertions de telle ou telle manière, sans avoir la moindre idée de mentir ou de porter un faux témoignage. Le manque de mémoire ou telle autre cause peut faire omettre un point important ou, au contraire, lui donner trop d'importance ou en altérer la signification. Audit alteram partem, écoute l'autre partie, est une maxime à suivre. Écoutons donc les deux parties et nous pourrons porter un jugement juste et équitable. En règle générale, tout jugement formé sans une exacte connaissance de tous les faits n'a aucune valeur. Écoutez les différences entre vos frères et jugez avec justice entre un homme et son frère et l'étranger qui est avec lui. Paroles utiles en tout temps. Quelle injonction importante aussi au verset 17. Comme ces paroles dévoilent le pauvre cœur humain, ne sommes-nous pas portés à avoir égard à l'apparence, à être influencés par les personnes, à mettre de l'importance à la position, à la fortune, à craindre l'homme? L'antidote divin à tous ces maux est la crainte de Dieu. Si nous avons le Seigneur devant nos yeux en tout temps, cela nous délivrera de la pernicieuse influence de la partialité, des préventions et de la crainte des hommes, source de tant de mal parmi les enfants de Dieu. Voyons maintenant le récit fait par Moïse de la mission des espions, de son origine et de ses résultats. Et je vous commandais en ce temps-là toutes les choses que vous devez faire, verset 18. Le sentier de l'obéissance était mis devant eux, ils n'avaient qu'à y marcher d'un pas ferme et avec un cœur soumis. Ils n'avaient pas à raisonner ou à peser les conséquences. Ils devaient laisser tout cela entre les mains de Dieu et avancer résolument dans ce sentier béni. Et nous partîmes d'Horeb, et nous traversâmes tout ce grand et terrible désert que vous avez vu, le chemin de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'avait commandé, et nous vîmes jusqu'à Kadès-Barnéa. Et je vous dis, vous êtes arrivés jusqu'à la montagne des Amoréens, laquelle l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Regarde, l'Éternel, ton Dieu, a mis devant toi le pays, monte. Prends possession comme l'Éternel, le Dieu de tes pères, te l'a dit, ne crains point et ne t'effraie point, versets 19 à 21. Tel était leur mandat pour entrer en possession immédiate. L'Éternel, leur Dieu, leur avait donné le pays et l'avait mis devant eux. Il leur appartenait, c'était le don gratuit de sa grâce souveraine, ensuite de l'alliance qu'il avait faite avec leur père, son dessein de toute éternité. Cela aurait dû suffire pour mettre leur cœur en repos, non seulement quant à la nature du pays, mais encore quant à la manière dont ils y entreraient. Il n'y avait nul besoin d'espions. La foi ne demande pas à examiner ce que Dieu a donné, elle conclut que ce qu'il a donné doit être bon à avoir et qu'il est capable de nous faire entrer en pleine possession de tout ce que sa grâce nous a accordé. Israël aurait pu conclure que la même main qui les avait guidés dans tout ce grand et terrible désert pouvait les faire entrer et les affermir dans leur héritage. C'est ainsi que la foi aurait raisonné, car elle va de Dieu aux circonstances, jamais des circonstances à Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Romains 8, verset 31. C'est l'argument de la foi, grand dans sa simplicité et simple dans sa grandeur morale. Lorsque Dieu remplit tout l'horizon de la vision de l'âme, les difficultés sont de peu d'importance. Ou bien elles passent inaperçues, ou bien elles sont considérées comme des occasions pour le déploiement de la puissance divine. La foi aime avoir Dieu triompher des difficultés. Mais, hélas, le peuple n'était pas gouverné par la foi dans cette circonstance. C'est pourquoi il eut recours aux espions. C'est ce que Moïse leur rappelle dans un langage à la fois tendre et fidèle. Et vous vous approchâtes tous de moi, et vous dites, « Envoyons des hommes devant nous, et ils examineront le pays pour nous, et ils nous rapporteront des nouvelles du chemin par lequel nous pourrons monter, et des villes auxquelles nous viendrons. » Verset 22. Ils auraient dû se reposer sur Dieu pour tout cela. Celui qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, qui leur avait frayé un passage à travers la mer, qui les avait guidés dans le désert, était bien capable de les faire entrer dans le pays. Mais non, ils veulent envoyer des espions parce que leur cœur n'avait pas confiance dans le Dieu Tout-Puissant. C'était là le secret de l'affaire, soyons-en bien persuadés. S'il nous est dit dans les Nombres que l'Éternel commanda à Moïse d'envoyer les espions, c'est à cause de la condition morale du peuple. Nous voyons là la différence caractéristique et, en même temps, la belle harmonie des deux livres. Les Nombres nous donnent l'histoire publique. Le Deutéronome nous montre la raison secrète de la mission des espions. L'une est le complément de l'autre, et chacune en parfait accord avec le caractère du livre. Nous ne comprendrions pas le sujet à fond si nous n'avions que le récit donné dans les Nombres. Le commentaire fourni par le Deutéronome complète le tableau. Il se peut cependant que le lecteur demande comment ce pouvait être mal de les envoyer, puisque l'Éternel leur avait dit de le faire. Nous répondrons, le mal n'était pas dans le fait qu'on les envoyait, mais dans leur désir de les envoyer. Ce désir était le fruit de l'incrédulité. L'ordre de les envoyer fut donné à cause de cette incrédulité. Nous voyons quelque chose de semblable en Matthieu 19 touchant le divorce. Moïse, à cause de votre dureté de cœur, vous a permis de répudier vos femmes. Mais, au commencement, il n'en était pas ainsi. Tout s'explique aussi dans l'affaire des espions. Israël n'aurait pas dû en avoir besoin. Une foi simple n'y aurait jamais pensé. Mais l'Éternel vit l'état des choses et donna un ordre en accord avec cet état. De même, plusieurs siècles plus tard, il vit que le cœur du peuple désirait un roi, et il commanda à Samuel de leur en donner un. Lisez 1 Samuel 8, versets 7 à 9.
Et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te disent, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté, afin que je ne règne pas sur eux. Selon toutes les actions qu'ils ont commises depuis le jour où je les ai fait monter d'Égypte, jusqu'à ce jour, en ce qu'ils m'ont abandonné et ont servi d'autres dieux, ainsi ils font aussi à ton égard. Et maintenant, écoute leur voix, seulement tu leur rendras clairement témoignage, et tu leur annonceras le régime du roi qui régnera sur eux. »
Nous voyons que, lorsque Dieu satisfait un désir, ce n'est nullement une preuve que ce désir soit selon lui. Israël n'aurait pas dû demander un roi. L'Éternel ne leur suffisait-il pas? N'était-il pas leur roi? Ne pouvait-il pas, comme toujours, les conduire à la bataille et combattre pour eux? Pourquoi rechercher le bras de la chair? Tout pouvoir, toute sagesse, toute vraie bonté se trouvaient en l'Éternel, leur Dieu, et ils pouvaient y avoir recours en tout temps et dans toutes leurs nécessités. Et lorsqu'ils possédèrent le roi que leur cœur désirait, que fit ce roi pour eux? Tout le peuple le suivait en tremblant. 1 Samuel 13, verset 7. Plus nous étudions la triste histoire du règne de Saül, plus nous voyons que, du commencement à la fin, il fut un obstacle plutôt qu'une aide. Son règne fut un lamentable fiasco, exprimé par ces paroles du prophète Osée, chapitre 13, verset 11, « Je t'ai donné un roi dans ma colère, et je l'ai ôté dans ma fureur. » En un mot, Saül fut la réponse à l'incrédulité et à la volonté propre du peuple, c'est pourquoi toutes leurs brillantes espérances à son sujet furent bientôt totalement détruites. Il ne répondait point au cœur de Dieu, et, par conséquent, il ne répondit point aux besoins du peuple. Il se montra tout à fait indigne de la couronne, et sa mort ignominieuse sur la montagne de Gilboa fut en accord avec toute sa carrière. Maintenant, si nous considérons la mission des espions, nous voyons qu'elle se termine aussi par un désappointement complet. Il n'en pouvait être autrement, puisqu'elle était le fruit de l'incrédulité. Il est vrai que Dieu leur donna des espions. Aussi Moïse dit-il avec une grâce touchante, « Et la chose fut bonne à mes yeux, et je pris d'entre vous 12 hommes, un homme par tribu. » C'était la grâce, s'abaissant à l'état du peuple, et consentant à un projet qui convenait à cet état. Mais cela ne prouve nullement que, soit le projet, soit l'état du peuple, fussent selon Dieu. Béni soit son nom, il peut nous venir en aide dans notre incrédulité, quoiqu'il soit affligé et déshonoré par elle. Il aime une foi ferme et franche, la seule chose au monde qui lui donne sa vraie place. C'est pourquoi, lorsque Moïse dit au peuple, « Regarde, l'Éternel ton Dieu a mis devant toi le pays, monte, prends possession, comme l'Éternel, le Dieu de tes pères, te l'a dit, ne crains point et ne t'effraie point. » Quelle aurait dû être leur réponse? « Nous voici, ô Éternel, conduis-nous à la victoire. Tu nous suffis, avec toi pour chef, nous avancerons avec confiance. Pour toi, les difficultés ne sont rien. Peu nous importe ce qui nous attend. Les géants, les hautes murailles, les tours menaçantes ne sont devant toi, ô Éternel, Dieu d'Israël, que comme des feuilles sèches devant l'orage. Conduis-nous donc, ô Éternel. » Tel ne fut pas le langage d'Israël. Dieu ne leur suffisait pas. Ils ne se fiaient pas à ce qu'il leur avait dit du pays. Le pauvre cœur humain veut tout essayer, plutôt que de dépendre simplement de Dieu. L'homme naturel ne peut se confier en Dieu parce qu'il ne le connaît point. Il n'y a rien au monde de plus béni qu'une vie de foi simple et réelle. Mais on se fait illusion si l'on croit vivre de foi, tandis que le cœur s'appuie sur quelque soutien humain. Le vrai croyant n'a affaire qu'à Dieu. Toutes ses ressources sont en lui. Ce n'est pas qu'il n'apprécie les instruments que Dieu veut bien employer. Au contraire, il les apprécie hautement, précisément parce qu'ils sont les moyens dont Dieu se sert pour venir en aide et bénir. Mais il ne leur donne pas la place de Dieu. Il dit, « Mais toi, mon âme, repose-toi paisiblement sur Dieu, car mon attente est en lui, lui seul est mon rocher. » Psaume 62, versets 5 et 6. Il y a une force toute particulière dans ce mot « seul ». Il sonde le cœur. S'attendre à l'homme, soit directement, soit indirectement, pour suppléer à un besoin quelconque, c'est, en principe, s'écarter de la vie de foi. Et quelle triste chose que de compter sur les moyens humains. C'est, au point de vue moral, aussi dégradant que la vie de foi est anoblissante, et c'est aussi illusoire que dégradant. Israël voulut envoyer des espions, et toute l'affaire tourna à sa confusion. Et ils se tournèrent et montèrent dans la montagne et vinrent jusqu'au torrent d'Escol et explorèrent le pays. Et ils prirent dans leurs mains du fruit du pays et nous l'apportèrent. Et ils nous rendirent compte et dirent, « Le pays que l'Éternel notre Dieu nous donne est bon. » Versets 24 et 25. Puisque Dieu le donnait, il ne pouvait être que bon. Avait-il besoin d'espions pour leur dire que le don de Dieu était bon? Assurément non. Une foi simple aurait raisonné ainsi, « Tout ce que Dieu donne doit être digne de lui. Nous n'avons pas besoin d'espions pour nous en assurer. » Mais hélas, cette foi simple est un joyau extrêmement rare, et ceux-là même qui le possèdent n'en connaissent que bien peu la valeur et ne savent guère s'en servir. Parler de la vie de foi et vivre de cette vie, c'est deux choses, comme le sont la théorie et la pratique. N'oublions jamais que c'est le privilège de tout enfant de Dieu de vivre de foi, et que cette vie embrasse tout ce qui est nécessaire au chrétien, du commencement à la fin de sa carrière terrestre. Le lecteur remarquera de quelle manière Moïse fait allusion à la mission des espions. Il se borne à cette portion de leur témoignage qui était selon la vérité. Il ne dit rien des 10 espions infidèles. Ceci est en parfait accord avec le caractère et l'objet du livre. Tout s'y adresse à la conscience de l'assemblée. Il leur rappelle qu'ils avaient eux-mêmes proposé d'envoyer les espions, et que, quoique ces derniers eussent placé devant eux du fruit du pays, et témoigné de son excellence, ils ne voulurent pas y monter. Mais vous ne voulûtes pas monter, et vous fûtes rebelles au commandement de l'Éternel votre Dieu. Verset 26. Ils étaient sans excuse. Leur cœur était évidemment dans un état d'incrédulité et de rébellion, et la mission des espions, du commencement à la fin, ne fit que le manifester pleinement. Et vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, « C'est parce que l'Éternel nous hait, terrible mensonge, qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer aux mains des Amoréens pour nous détruire. » Combien les arguments de l'incrédulité sont absurdes. Sûrement, si l'Éternel les eût haïs, rien ne lui eût été plus facile que de les laisser mourir parmi les fours à briques des Égyptiens, sous le fouet cruel des exacteurs du Pharaon. Pourquoi s'était-il donné tant de peine à leur sujet? Pourquoi ces 10 plaies envoyées sur le pays de leurs oppresseurs? S'il les haïssait, pourquoi n'avait-il pas laissé les eaux de la mer Rouge les engloutir, comme elles avaient englouti leurs ennemis? Pourquoi les avait-il délivrés de l'épée d'Amalek? Ah, s'ils n'eussent pas été gouvernés par un esprit d'aveugle incrédulité, tant de preuves magnifiques de son amour les auraient amenés à une conclusion tout opposée à celle qu'ils osèrent exprimer. Il n'y a rien sous le ciel de plus irrationnel que l'incrédulité. Il n'y a rien de plus logique que la simple confiance d'une foi enfantine. Puisse le lecteur faire toujours l'expérience de cette vérité. Et vous murmurâtes dans vos tentes. L'incrédulité non seulement raisonne, mais elle murmure. Elle ne voit ni le bon, ni le beau côté des choses. Elle n'est jamais au clair parce qu'elle met Dieu de côté et ne regarde qu'aux circonstances. Ils dirent, « Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait fondre le cœur en disant, « C'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. » Mais il n'était pas plus grand que Jéhovah. Les villes sont grandes et murées jusqu'aux cieux. Grossière exagération de l'incrédulité. Et de plus, nous avons vu là des fils des Anakim. La foi aurait répondu, « Eh bien, si les villes sont murées jusqu'au ciel, notre Dieu est au-dessus d'elles, car il est dans le ciel. Que sont les grandes cités et les hautes murailles pour celui qui créa l'univers et le soutient par la parole de sa puissance? Que sont les Anakim en présence du Dieu Tout-Puissant? Si le pays était couvert de villes murées, de Dan à Beersheba, et si les géants étaient aussi nombreux que les feuilles d'une forêt, tout cela serait comme de la balle pour celui qui avait promis de donner à toujours la propriété du pays de Canaan à la postérité d'Abraham, son ami. Mais Israël n'avait pas la foi. Comme l'apôtre nous le dit au 3e chapitre des Hébreux, ils n'y purent entrer à cause de l'incrédulité. Là était la difficulté. Les villes à hautes murailles et les terribles anakim n'auraient pas été des obstacles si Israël ne s'était confié qu'en Dieu, qui en aurait promptement eu raison. L'incrédulité nous prive toujours de la bénédiction. Elle s'oppose au rayonnement de la gloire de Dieu. Elle jette une ombre sur nos âmes et nous ôte le privilège de faire l'expérience de la toute-suffisance de notre Dieu pour suppléer à tous nos besoins et pour écarter toutes nos difficultés. Béni soit-il de ce qu'il ne fait jamais défaut au cœur qui se confie en lui, et plus on lui demande, plus il aime à donner. Ne nous dit-il pas, ne crains pas, crois seulement, Marc 5, verset 36, ou encore, qu'il vous soit fait selon votre foi, Matthieu 9, verset 29. Précieuse parole, puissions-nous tous en réaliser pleinement la douceur et la force. Nous pouvons être certains que nous ne saurions jamais aller trop loin en comptant sur Dieu. Nous manquons toujours en ne puisant pas assez dans ses trésors infinis. Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Jean 11, verset 40. L'envoi des espions finit comme il avait commencé, par l'incrédulité la plus déplorable. Dieu étant mis de côté, ils ne voyaient que les difficultés. Ils n'y purent entrer, ils ne purent voir la gloire de Dieu. Écoutons les paroles de Moïse, elles font du bien au cœur, elles en touchent les cordes les plus sensibles. Et je vous dis, ne vous épouvantez pas, et ne les craignez point. L'Éternel votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous. Dieu combattant pour le peuple, l'Éternel un homme de guerre. Il combattra pour vous selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux, en Égypte et dans le désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, dans tout le chemin où vous avez marché, jusqu'à ce que vous soyez arrivés en ce lieu-ci. Mais, dans cette circonstance, vous ne crûtes point l'Éternel votre Dieu, qui, afin de reconnaître pour vous un lieu pour que vous y campiez, allez devant vous dans le chemin, la nuit, dans le feu, pour vous faire voir le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans la nuée. Quelle force morale, quelle touchante douceur dans cet appel. Comme nous voyons clairement ici, ainsi qu'à chaque page du livre, que le Deutéronome n'est pas une simple répétition de faits, mais un puissant commentaire de ces faits qui touchent tout à fait le cœur. La manière d'agir si tendre de l'Éternel est indiquée ici avec une délicatesse inimitable. Qui ne serait frappé par cette douce image, comme un homme porte son fils? Si la force de la main de l'Éternel ou la supériorité de son intelligence se voit dans la nature de son action, l'amour de son cœur se montre dans la manière dont il l'accomplit. Les Israélites, néanmoins, ne pouvaient croire que Dieu les ferait entrer au pays. Malgré les merveilleuses preuves qu'il leur avait données de sa puissance, de sa fidélité, de sa bonté, depuis les fours à briques d'Égypte jusqu'aux confins du pays de Canaan, ils restaient incrédules. Et l'Éternel entendit la voix de vos paroles et fut courroucé, et jura, disant, « Si aucun de ces hommes de cette génération méchante voit ce bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jéphuné, lui le verra, et je lui donnerai, et à ses fils, le pays où il a marché, parce qu'il a pleinement suivi l'Éternel. » Verset 35-36. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Jean 11, verset 40. Tel est l'ordre divin. Les hommes disent que voir, c'est croire, mais dans le royaume de Dieu, croire, c'est voir. Pourquoi aucun des hommes de cette méchante génération ne put-il voir ce bon pays? Simplement parce qu'ils n'avaient pas cru l'Éternel, leur Dieu. Et pourquoi Caleb eut-il la permission de le voir et d'en prendre possession? Simplement parce qu'il avait cru. L'incrédulité est toujours ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Matthieu 13, verset 58. Si Israël eût cru, il l'aurait amené et établi sur la montagne de son héritage. Il en est de même des chrétiens maintenant. Il n'y a pas de limite aux bénédictions dont nous pourrions jouir si nous comptions davantage sur Dieu. Toutes choses sont possibles à celui qui croit, Marc 9, verset 23. Dieu ne nous dira jamais « Tu as assez reçu, tu attends trop ». Impossible, car c'est sa joie de répondre aux espérances les plus vastes de la foi. Tirons donc largement sur lui. Ouvre ta bouche toute grande, et je la remplirai. Psaume 81, verset 10. Les trésors inépuisables du ciel sont ouverts à la foi. Quoi que vous demandiez en priant, si vous croyez, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 22. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne à tous libéralement et qui ne fait pas de reproches, et il lui sera donné. Mais qu'il demande avec foi, ne doutant nullement. Jacques 1, verset 5. La foi n'hésite ni ne doute. L'incrédulité est toujours hésitante et chancelante, c'est pourquoi elle ne voit jamais la gloire de Dieu ni sa puissance. Elle est sourde à sa voix et aveugle pour voir ses actes. Elle affaiblit le cœur et les mains. Elle assombrit la route et empêche tout progrès. Elle retint Israël 40 ans loin du pays de Canaan, et nous n'avons aucune idée de combien de bénédictions elle nous prive. Combien tout irait mieux parmi nous si la foi était plus vivante dans nos cœurs? Quelle est la cause de la déplorable stérilité de la chrétienté professante? Comment expliquerons-nous notre pauvreté morale, notre peu de croissance? Pourquoi voyons-nous de si faibles résultats de toutes les œuvres chrétiennes? Pourquoi y a-t-il si peu de véritables conversions? Pourquoi nos évangélistes sont-ils si souvent découragés à cause du petit nombre de leurs gerbes? Nous répondrons à toutes ces questions. La cause de tout ce mal est notre incrédulité. Sans doute que nos divisions y ont aussi leur part, de même que notre mondanité, l'état charnel de nos cœurs, notre égoïsme, notre amour de nos aises. Quel est le remède à tout cela? Comment nos cœurs seront-ils attirés vers tous nos frères dans un amour sincère? Par la foi, ce principe précieux, opérant par l'amour. Galates 5, verset 6.
Car dans le Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision n'ont de valeur, mais la foi opérante par l'amour.
Ainsi l'apôtre peut dire aux chers nouveaux convertis de Thessalonique, « Votre foi augmente beaucoup ». Et puis encore, de Thessaloniciens 1, verset 3, « Et l'amour de chacun de vous tous, l'un pour l'autre, abonde ». Il en est toujours ainsi. La foi nous met en contact immédiat avec la source éternelle de l'amour en Dieu lui-même, et la conséquence naturelle en est que nos cœurs sont attirés vers tous ceux qui lui appartiennent, vers tous ceux dans lesquels nous retrouvons, quelque peu que ce soit, son image bénie. Nous ne pouvons être près du Seigneur et ne pas aimer tous ceux qui, en tout lieu, invoquent son nom d'un cœur pur. Plus nous sommes près de Christ, plus nous serons intimement unis dans l'amour fraternel à chaque membre de son corps. Quant à la mondanité, sous toutes ses formes, comment la combattrons-nous? Voici la réponse d'un autre apôtre. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, 1 Jean 5, versets 4 et 5. Le nouvel homme marchant dans la puissance de la foi vit au-dessus du monde, au-dessus de ses intérêts, de ses motifs, de ses usages. Il n'a rien de commun avec lui, quoique dans le monde, il n'est pas du monde. Il se meut en sens contraire. Toutes ses sources viennent du ciel. Sa vie, ses espérances, son tout est là, et il lui tarde d'y être aussi, quand son œuvre sur la terre sera terminée. La foi est donc un principe puissant. Elle purifie le cœur. Elle opère par l'amour. Elle est victorieuse du monde. Il n'est donc pas étonnant que Pierre l'appelle une foi précieuse. Elle l'est vraiment au-delà de toute expression. Voyez comment ce principe agissait en Caleb et quel fruit béni il produisit. Caleb put réaliser la vérité de ses paroles prononcées des centaines d'années plus tard. « Il vous sera fait selon votre foi ». Il crut que Dieu était capable de les faire entrer dans le pays et que tous les obstacles et toutes les difficultés n'étaient là que pour exercer leur foi. Puis Dieu, comme il le fait toujours, répondit à sa foi. Voyez Josué 14, versets 6 à 14.
Et les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, lui dit, « Tu sais la parole que l'Éternel a dite à mon sujet et à ton sujet, à Moïse, homme de Dieu, à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans quand Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays, et je lui rapportai la chose comme elle était dans mon cœur. Et mes frères qui étaient montés avec moi faisaient fondre le cœur du peuple. Mais moi, je suivis pleinement l'Éternel mon Dieu. Et Moïse jura en ce jour-là, disant, « Si le pays que ton pied a foulé n'est à toi pour héritage et à tes fils pour toujours, car tu as pleinement suivi l'Éternel mon Dieu. Et maintenant, voici, comme il l'a dit, l'Éternel m'a conservé en vie ces 45 ans, depuis que l'Éternel a dit cette parole à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, moi je suis aujourd'hui âgé de 85 ans, je suis encore aujourd'hui fort comme le jour où Moïse m'envoya, telle que ma force était alors, telle ma force est maintenant pour la guerre et pour sortir et pour entrer. Et maintenant, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce jour-là, car tu as entendu en ce jour-là que les Anakim y sont, et de grandes villes fortes. Peut-être que l'Éternel sera avec moi, et je les déposséderai comme l'Éternel a dit. » Et Josué le bénit, et donna Hébron en héritage à Caleb, fils de Jephunné. C'est pourquoi Hébron appartient en héritage jusqu'à ce jour à Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, parce qu'il avait pleinement suivi l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Quelle est édifiante l'expression d'une foi candide! Quel contraste avec les accents de la sombre incrédulité qui déshonore Dieu! Et Josué le bénit et donna Hébron en héritage à Caleb, fils de Jephunné. C'est pourquoi Hébron appartient en héritage jusqu'à ce jour à Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, parce qu'il avait pleinement suivi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Caleb, comme son père Abraham, était fort dans la foi, donnant gloire à Dieu. Nous pouvons dire, avec une entière certitude, que, comme la foi honore toujours Dieu, Dieu à son tour aime à honorer la foi, et que si les chrétiens dépendaient plus entièrement de Dieu seul, s'ils puisaient davantage aux sources éternelles, nous verrions un état de choses bien différent autour de nous. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oh, si nous avions une foi plus vivante, si nous saisissions plus fermement les promesses de Dieu, alors nous pourrions attendre des résultats plus glorieux de l'évangélisation. Nous verrions plus de zèle, plus d'énergie et plus de dévouement dans l'Église, et plus de fruits de justice dans la vie de chaque croyant individuellement. Au verset 37, Moïse rappelle d'une manière touchante le fait de son exclusion de la terre promise. « Contre moi aussi l'Éternel s'irrita à cause de vous, disant, « Toi non plus, tu n'y entreras pas. » Remarquez ces mots, « à cause de vous ». Il était nécessaire de rappeler à l'assemblée que c'était à cause d'eux que Moïse, ce bien-aimé et honoré serviteur de l'Éternel, était empêché de traverser le Jourdain et de poser son pied dans le pays de Canaan. Il est vrai qu'il avait parlé légèrement de ses lèvres, mais il l'avait provoqué en chagrinant son esprit. Psaume 106, verset 33.
Car ils chagrinèrent son esprit, de sorte qu'il parla légèrement de ses lèvres.
Combien cela aurait dû les toucher! Non seulement ils ne purent entrer eux-mêmes à cause de leur incrédulité, mais encore ils furent la cause de l'exclusion de Moïse, qui désirait si ardemment voir cette bonne montagne et le Liban, Deutéronome 3, verset 25.
Que je passe, je te prie, et que je vois ce bon pays qui est au-delà du Jourdain, cette bonne montagne et le Liban.
Le gouvernement de Dieu est une solennelle réalité. Le cœur humain s'étonnera peut-être que quelques paroles prononcées à la légère aient été une cause suffisante pour empêcher un bien-aimé serviteur d'atteindre l'objet de ses vœux. Nous n'avons qu'à courber la tête. Il ne nous appartient pas de juger ou de raisonner. Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste? Genèse 18, verset 25. Assurément. Il ne peut se tromper. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Justes et véritables sont tes voies, ô Roi des nations. Apocalypse 15, verset 3. Dieu est extrêmement redoutable dans l'assemblée des saints et terrible au milieu de tous ceux qui l'entourent. Psaume 89, verset 7. Notre Dieu est un feu consumant. Hébreux 12, verset 29. Et c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, verset 31. La portée et l'action du gouvernement de Dieu seront-elles différentes parce que nous, chrétiens, sommes sous la dispensation de la grâce? Nullement. Il est aussi vrai aujourd'hui que jamais que ce qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Galates 6, verset 7. Il ne s'agit donc pas de spéculer sur la liberté de la grâce divine pour être à l'abri des actes du gouvernement divin. Ces deux choses sont parfaitement distinctes. On ne devrait jamais les confondre. La grâce peut pardonner gratuitement et pour toujours, mais les roues du gouvernement de l'Éternel continuent à tourner avec une puissance écrasante. La grâce pardonna le péché d'Adam. Mais sa justice le chassa d'Éden pour gagner son pain à la sueur de son front, parmi les épines et les ronces d'un sol maudit. La grâce pardonna le péché de David, mais l'épée du gouvernement resta sur sa maison jusqu'à la fin. Bathsheba fut la mère de Salomon, mais Absalom fomenta une rébellion. De même pour Moïse, la grâce le fait monter au sommet de Pisga, et lui montre le pays, mais le gouvernement lui défend positivement d'y entrer. On objectera que Moïse, dans sa capacité officielle, en tant que représentant le système légal, ne pouvait amener le peuple dans le pays. Cela est vrai, mais ne touche en rien la solennelle vérité qui nous occupe. Ni dans le 20e chapitre des Nombres, ni dans le 1er chapitre du Deutéronome, nous ne voyons un mot de Moïse dans sa position officielle. C'est lui-même en personne qui est devant nous, et s'il ne peut entrer dans le pays de la promesse, c'est parce qu'il a parlé légèrement de ses lèvres. Il sera bon pour nous de bien peser, devant Dieu, cette grande vérité pratique. Soyons certains que plus nous connaîtrons vraiment la grâce, plus nous sentirons la solennité du gouvernement, et plus nous en approuverons les arrêts. Il y a du danger à recevoir avec insouciance et légèreté la doctrine de la grâce, lorsque le cœur et la vie n'en subissent pas la sanctifiante influence. Il n'y a rien de plus terrible qu'une légèreté charnelle relativement à la vérité du salut par grâce. Elle ouvre la porte à toute espèce de licence. C'est pourquoi nous voudrions mettre sur la conscience du lecteur la vérité pratique du gouvernement de Dieu. Elle est utile en tout temps, mais surtout de nos jours où règne la fatale tendance de changer la grâce de notre Dieu en dissolution. Jude 4. Nous verrons toujours que ceux qui sentent le plus profondément l'immense bénédiction d'être sous la dispensation de la grâce seront aussi ceux qui accepteront le plus entièrement les arrêts du gouvernement de Dieu. Nous apprenons par la fin de notre chapitre que le peuple n'était nullement disposé à se soumettre à ce gouvernement. Il ne voulait ni grâce ni gouvernement. Quand on l'invite à monter pour aller prendre possession du pays avec l'aide de l'Éternel, il hésite, refuse et se laisse aller à un esprit d'incrédulité. En vain Josué et Caleb lui font entendre les paroles les plus encourageantes. En vain étale-t-il devant ses yeux les beaux fruits du bon pays. En vain Moïse cherche à l'émouvoir par les motifs les plus touchants. Israël ne veut pas monter lorsqu'on lui dit de le faire. Qu'arrive-t-il alors? Il est pris au mot. Il lui est fait selon son incrédulité. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit qu'ils seraient une proie, et vos fils, qui aujourd'hui ne connaissent pas le bien et le mal, ceux-là y entreront. Et c'est à eux que je le donnerai, et ils le posséderont. Et vous, tournez-vous et partez pour le désert par le chemin de la mer Rouge, versets 39 et 40. Il n'y avait pas d'alternative. S'ils ne voulaient pas monter au pays avec une foi simple, ils devaient retourner dans le désert. C'est à quoi ils ne veulent pas se soumettre. Ils ne voulaient ni profiter des provisions de la grâce, ni s'incliner sous la sentence du jugement. Et vous répondîtes et me dites, « Nous avons péché contre l'Éternel, nous monterons et nous combattrons selon tout ce que l'Éternel notre Dieu nous a commandé. » Et vous ceignîtes chacun ses armes de guerre, et légèrement vous entreprîtes de monter dans la montagne, verset 41. Cela ressemble à la contrition et au jugement de soi-même, mais il n'y en avait que l'apparence. Il est très facile de dire « nous avons péché ». Saül aussi l'a dit plus tard, mais sans avoir le sentiment de la signification de ces mots « j'ai péché », comme on le voit par ce qui suit immédiatement. « Honore-moi maintenant, je te prie, en la présence des anciens de mon peuple. » 1 Samuel 15, verset 30. Quelle étrange contradiction. « J'ai péché, mais pourtant, honore-moi. » S'il eût réellement senti son péché, combien son langage aurait été différent, ainsi que toute sa conduite. Rempli de lui-même, se servant d'une formule, sans un atome de sentiment réel, Saül faisait montre d'adorer Dieu, afin de s'attirer de l'honneur. Combien de telles choses doivent offenser celui qui exige la vérité dans le cœur et qui veut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Les plus faibles soupirs d'un cœur brisé et contrit sont précieux au Seigneur, mais ils abhorrent les vaines formes de la religiosité, dont le but est d'exalter l'homme à ses propres yeux et aux yeux de ses semblables. La confession des lèvres n'a aucune valeur si le cœur ne sent pas le péché. Un auteur moderne l'a dit avec beaucoup de justesse, c'est une chose facile de dire « nous avons péché », mais que de fois il nous faut apprendre qu'une prompte et brusque confession du péché n'est pas ce qui prouve que le péché est senti. Elle est plutôt une preuve de la dureté de cœur. La conscience sent qu'un certain acte de confession est nécessaire, mais il n'y a peut-être rien qui endurcisse autant le cœur que l'habitude de confesser le péché sans le sentir. Un des grands pièges de la chrétienté est l'habitude de répéter au moyen d'une formule une confession stéréotypée des péchés. Nous l'avons probablement tous fait d'une manière ou d'une autre, car, sans posséder une formule écrite, le cœur naturel peut toujours s'en composer quelqu'une à son usage. Ainsi en fut-il pour Israël à Kadès. Leur confession de péché était sans aucune valeur. Elle n'avait pas le cachet de la vérité. S'ils eussent senti ce qu'ils disaient, ils se seraient inclinés sous le jugement de Dieu et auraient accepté humblement la conséquence de leur péché. Voyez le cas de Moïse. il courbe sa tête sous la discipline divine. L'Éternel, dit-il, s'irrita contre moi à cause de vous, disant, « Toi non plus, tu n'y entreras pas. Josué, fils de Nun, qui se tient devant toi, lui y entrera, fortifie-le, car c'est lui qui le fera hériter à Israël, versets 37 à 38. » Moïse leur montre qu'ils sont la cause de son exclusion du pays, et cependant pas une parole de murmure ne lui échappe. Il se soumet à la décision divine, non seulement résigné à être remplacé par un autre, mais prêt à nommer et à encourager son successeur. Il n'y a pas trace de jalousie ou d'envie en lui. Il n'était pas occupé de lui-même ou de ses intérêts, mais de la gloire de Dieu et du bien de son peuple. Ce dernier montrait un esprit bien différent. Nous monterons et nous combattrons. Quelle folie! Lorsque Dieu leur avait commandé de monter, et que ses fidèles serviteurs les avaient encouragés à aller prendre possession du pays, ils avaient répondu, « Où monterions-nous ? » Puis, lorsqu'il leur est ordonné de retourner dans le désert, ils disent, « Nous monterons et nous combattrons. » Et l'Éternel me dit, « Dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis point au milieu de vous, afin que vous ne soyez pas battus par vos ennemis. Et je vous parlais, mais vous n'écoutâtes point, et vous fûtes rebelles au commandement de l'Éternel, et vous fûtes présomptueux, et montâtes dans la montagne. Et l'Amoréen qui habitait cette montagne sortit à votre rencontre, et vous poursuivit, comme font les abeilles, et il vous tailla en pièces en Séir jusqu'à Horma, versets 42-44. Il n'était pas possible que l'Éternel les accompagnât sur le chemin de la volonté propre et de la rébellion, et sans la présence divine, Israël ne pouvait résister aux Amoréens. Si Dieu est pour nous et avec nous, nous devons être victorieux, mais nous ne pouvons pas compter sur Dieu si nous ne sommes pas dans le chemin de l'obéissance. C'est folie de s'imaginer que nous pouvons avoir Dieu avec nous si notre conduite n'est pas fidèle. Le nom de l'Éternel est une forte tour. Le juste y court et s'y trouve en une haute retraite. Proverbe 18, verset 10. Si nous ne marchons pas dans la justice pratique, c'est une coupable présomption que de parler d'avoir le Seigneur pour notre forte tour. Béni soit-il de ce qu'il peut nous agréer malgré toutes nos faiblesses et toutes nos misères, pourvu qu'il voit en nous un sentiment sincère de notre vraie condition. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, psaume 37, verset 3, tel est l'ordre divin. Prétendre s'assurer en l'Éternel tandis qu'on fait le mal, c'est changer la grâce de notre Dieu en dissolution et nous mettre entre les mains du diable qui ne cherche que notre ruine morale. Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, afin qu'il se montre fort en faveur de ceux qui sont d'un cœur parfait envers lui. De Chroniques 16, verset 9. Quand nous avons une bonne conscience, nous pouvons lever la tête et cheminer à travers toute espèce de difficulté. Mais vouloir marcher sur le sentier de la foi avec une mauvaise conscience est une chose des plus dangereuses. Ce n'est que lorsque nos reins sont sains de vérité et que nous avons revêtu la cuirasse de la justice que nous pouvons prendre le bouclier de la foi. Il est de toute importance que les chrétiens recherchent la justice pratique dans tous ses détails. Ces paroles de l'apôtre Paul sont d'une grande valeur morale pour nous. Moi aussi, je m'exerce à avoir toujours une conscience sans reproche, devant Dieu et devant les hommes. Nous devrions faire de même. Notre saint privilège est de fouler, jour après jour, d'un pas ferme, le sentier du devoir, de l'obéissance, celui sur lequel luit constamment la lumière de l'approbation de Dieu. Alors sûrement, nous pourrons compter sur Dieu et ainsi avancer en paix vers notre patrie céleste. Nous le répétons, ce n'est pas que nous ne puissions regarder à Dieu dans notre faiblesse, nos manquements, et même lorsque nous avons péché. Nous le pouvons et nous le devons. Son oreille est toujours attentive à notre cri. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Je t'ai invoqué des lieux profonds, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Ô Jah, si tu prends garde aux iniquités, Seigneur, qui subsistera? Mais il y a pardon auprès de toi, afin que tu sois craint. Psaume 130, versets 1 à 4. Il n'y a aucune limite au pardon divin, par le fait qu'il n'y en a aucune à l'étendue de l'expiation, aucune à la vertu et à l'efficace du sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui purifie de tout péché. Aucune à la valeur de l'intercession de notre grand souverain sacrificateur, qui peut sauver jusqu'au bout tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Toutes ces vérités sont largement exposées et illustrées de diverses manières dans le volume inspiré. Mais la confession du péché et le pardon ne doivent pas être confondus avec la justice pratique. Ce sont deux conditions très distinctes dans lesquelles nous pouvons nous adresser à Dieu. Nous pouvons l'invoquer avec une profonde contrition et être exaucés, ou bien nous pouvons le prier avec une bonne conscience et être exaucés aussi. Néanmoins, les deux choses sont essentiellement distinctes et forment toutes deux un contraste marqué avec l'indifférence et la dureté de cœur qui prétendent compter sur Dieu dans une marche de désobéissance positive. C'est là ce qui est si choquant aux yeux du Seigneur et qui attire son juste jugement. Il reconnaît et il approuve la justice pratique. Il pardonne gratuitement et entièrement le péché confessé. Mais nous imaginer que nous pouvons nous confier en Dieu, tandis que nos pieds sont sur le chemin de l'iniquité, ce n'est rien moins que la plus épouvantable impiété. Ne mettez pas votre confiance en des paroles de mensonge disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Mais si vous amendez réellement vos voies et vos actions, si vous faites réellement la justice entre un homme et son prochain, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, et que vous ne versiez pas le sang innocent dans ce lieu, et que vous ne marchiez pas après d'autres dieux pour votre dommage, je vous ferai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères de siècle en siècle. Voici, vous vous confiez en des paroles de mensonges qui ne profitent pas. Quoi ? Voler, tuer, commettre adultère, jurer faussement, brûler de l'encens à Baal, marcher après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Et vous venez, et vous vous tenez devant moi dans cette maison qui est appelée de mon nom, et vous dites, « Nous sommes délivrés pour faire toutes ces abominations. » Jérémie 7, versets 4 à 10. Dieu veut la réalité. Il désire la vérité dans le cœur, et si les hommes prétendent l'avoir et marchent dans l'impiété, il faut qu'ils s'attendent à son juste jugement. Cette pensée nous fait trembler pour l'Église professante. Le passage si solennel que nous avons tiré du prophète Jérémie, quoique s'appliquant tout d'abord aux enfants de Juda et aux habitants de Jérusalem, a aussi une application très positive à la chrétienté. Nous voyons au troisième chapitre de la seconde épître à Timothée que toutes les abominations du paganisme, énumérées à la fin du premier chapitre des Romains, seront reproduites au dernier jour, couvertes du manteau de la profession chrétienne, et en relation immédiate avec une forme de piété. Quelle doit être la fin d'un semblable état de choses? La colère sans rémission. Les plus sévères jugements de Dieu en destruction sont réservés aux masses baptisées de cette profession que nous appelons la chrétienté. Le moment approche rapidement où tous les bien-aimés enfants de Dieu, rachetés par le sang de Christ, seront enlevés de ce monde coupable et pécheur, bien que soi-disant chrétien, pour être à toujours avec le Seigneur dans ses demeures divines préparées dans la maison du Père. Alors, l'énergie d'erreur, de Thessaloniciens 2, verset 11, sera envoyée sous la chrétienté sur ces mêmes pays où la lumière du christianisme a brillé avec éclat, où l'évangile du salut gratuit a été prêché, où la Bible a circulé par millions d'exemplaires, et où tous, plus ou moins, professent le nom de Christ et s'appellent chrétiens.
2 Thessaloniciens 2, verset 11. Et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge.
Qu'est-ce qui doit succéder à cette énergie d'erreur? Un nouveau témoignage, de nouvelles offres de grâce, d'autres tentatives de la miséricorde divine? Non, pas pour la chrétienté. Non, pas pour ceux qui professent, sans Dieu et sans Christ, les formes creuses et vaines du christianisme. Les païens entendront l'évangile éternel. Apocalypse 14, verset 6. L'évangile du royaume.
Et je vis un autre ange volant par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui sont établis sur la terre et à toute nation et tribu et langue et peuple.
Mais quant à cette chose terrible, quant à cette épouvantable anomalie qui s'appelle la chrétienté, rien ne reste pour elle que les ténèbres du dehors à jamais. Lecteur, ce sont les paroles véritables de Dieu. Rien ne serait plus facile que de mettre sous vos yeux une foule de preuves convaincantes tirées de l'Écriture. Mais cela nous écarterait de notre but actuel. Le Nouveau Testament, du commencement à la fin, enseigne la solennelle vérité énoncée ci-dessus, et tout système de théologie qui enseigne différemment sera, sur ce point du moins, reconnu complètement faux.